RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On finit cette magnifique semaine. On s'est régalé, beaucoup d'émotions en milieu de semaine. Encore une pensée pour notre ami Roland qui nous a quittés en début de semaine. On a passé une bonne semaine, il y avait beaucoup d'actu et on va passer un excellent vendredi soir parce que de l'actu, il y en a beaucoup et surtout on lance la 18e journée de championnat de Ligue 1 qui commence dans une heure avec Monaco qui reçoit
Lorient
bien sûr et ce soir le choc Paris Saint-Germain-Lille. On parle de tout ça avec Benoît Boutron comme tous les jours. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va ?
Ah bah ça m'a manqué le vendredi de lancer comme ça les journées de Ligue 1.
Ah, c'est bien de retrouver tous nos correspondants déjà pour la nouvelle année.
J'ai une petite surprise pour vous. Je vous donne rendez-vous à 18h30.
T'es comme ça, t'as envie que les gens y restent. Appelez vos amis.
Pour vous, membre de Rotten sans flamme.
D'accord. Écoute, ça tombe bien parce que des surprises, on aime ça. Et Manu Petit, il aime ça, les surprises. Salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Ça va Manu ?
Salut Manu.
Très bien et vous ?
Bon,
ça
va. Tout va bien ?
Très bien, malgré ce qui s'est passé cette semaine. Donc, une grosse pensée pour Roland.
Exactement.
Voilà.
Et oui, tous les jours on en a parlé. On continuera de le faire exister.
Dans le studio Roland Courbis,
avec quelqu'un qui l'a connu aussi très bien. C'est Jean-Pierre Papin. Salut JPP. Oui. Salut JPP.
Bonsoir les amis, comment allez-vous ?
Ça va ?
Salut JPP.
Ça va.
Bon, écoute, on est heureux de te retrouver, Jean-Pierre. On va passer une excellente émission. Je suis sûr que vous allez être bon.
Alors, gros programme, on vous l'a dit. À 19h, la tradition du vendredi, le multiplex. On va lancer la 18e journée de Ligue 1. Monaco-Lorient assure en direct.
Ça. Ouais.
Et tous nos correspondants, Édouard G, Jean Baumel, Maxime Tilliet, Xavier Grimaud, avec cette question autour du RC Lens. Est-ce que la série de victoires peut devenir pesante ? On est sur une série historique pour les Lensois. 9 victoires d'affilée. Est-ce que ça va commencer à peser dans les têtes, comme ça, les records qui s'accumulent ? À 18h45, on parlait de Roland Courbis. Un homme qu'il a bien connu va venir lui rendre hommage, messieurs. Fabrizio Ravanelli sera l'invité de Rotten sans flamme, Pena Bianca. Voilà une histoire très forte entre les deux. C'était la grande période de coach Courbis à l'OM. Il était ravi de pouvoir venir lui rendre hommage. On l'accueillera à 18h45. Et puis à 18h30, autre thème lié à Roland, le procès de tous ceux qui pensent que le carton orange est une mauvaise idée. Tous les coachs de Ligue 1 ont été interrogés sur le sujet.
Ils sont tous unanimes.
Ah, il y a des coachs qui sont favorables, d'autres qui sont un peu plus réfractaires. Vous entendrez ça. On a hâte d'entendre votre avis, vos avis à vous en tout cas, Jérôme, Manu, JPP.
Ouais, moi je vais mettre tout le monde d'accord.
Ce carton orange. Et puis l'événement sur RMC, c'est donc le grand match qui vous attend la semaine prochaine. Marseille-Liverpool, mercredi prochain, 21h au Stade Vélodrome. On vous propose de vivre l'expérience RMC, 2 places pour assister au match. Les 2 maillots collecteurs de l'OM, Marseille Monumental. Alors dès que vous entendrez ce signal sonore.
Ah c'est original hein.
Quel bonheur.
Original.
Vous aurez 5 minutes jingle. Pour envoyer OM au 732-16.
Ah là, il faut y aller hein.
Au 732-16.
L'OM est favori
c'est
sur ce match.
C'est un portable ça Jump ou pas Jérôme ?
Non, mais ça me fait plaisir là, parce que franchement on est excité de voir cette affiche Marseille favori sur cette rencontre.
Bah évidemment.
Écoute ça va être beau.
On a hâte de voir ça. Allez, 18h03 sur RMC. Manu, oui. Que doit faire Ousmane ? Partir ou rester ?
Dis-moi pourquoi tu restes.
Ça a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain.
Si t'étais vraiment honnête.
Je vais te répondre. Et ça, j'aimerais bien que tu t'arrêtes de m'interrompre.
Mon amour, t'es plus amoureux.
Oui, Manu.
Pourquoi tu restes ?
C'est vraiment une famille incroyable. Ils ont été exceptionnels depuis le premier jour.
Oui, là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il en a ras la calquette.
Voilà, surtout ce trophée individuel, c'est vraiment le collectif pour moi qui l'a gagné.
Prends toutes tes statistiques, tes data, là. Et faisons-en.
C'est sur le terrain qu'on veut l'avoir et il assume parfaitement son rôle de leadership sur le terrain.
Les supporters depuis que j'ai signé au Paris Saint-Germain depuis le premier jour m'ont accueilli à merveille.
Je pense que le niveau c'est pas une question de niveau.
Dis-moi pourquoi tu restes.
C'est vrai que le niveau c'est pas une question de niveau. Alors quel avenir pour Ousmane Dembélé au PSG ? Saison dernière exceptionnelle pour lui, il a tout raflé avec Paris, le ballon d'or décroché, 53 matchs, 35 buts, 16 passes décisives. Cette saison est particulière, il est perturbé par des blessures, il a été blessé 2 fois, il a joué seulement 17 matchs. Il a 28 ans, il a tout gagné à part l'Euro avec l'équipe de France et il est sous contrat jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain. Fabrice Hawkins, l'homme des infos RMC Sport est avec nous.
L'homme des contrats.
Oui. Salut Fabrice.
Salut Fabous. Ça va Fabulous ?
Bon.
Tout va bien.
Fabrice, bon. Fais-nous un point sur l'état des négociations entre le PSG et le clan Dembélé, s'il te plaît.
Eh bien, le PSG a donc ouvert les négociations avec le meilleur buteur de la saison passée. Une première proposition orale pour étendre le contrat de Dembélé, tu l'as dit, Benoît, en fin de contrat en 2028. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres, hein, bien évidemment. Ce sont des négociations. On protège certains éléments de ces négociations et ça va être comme ça, je pense, jusqu'au bout. Ce qu'on sait, c'est que du côté de Dembélé, on espère un salaire en phase avec son statut de ballon d'or. Alors que du côté du Paris Saint-Germain, il est hors de question d'offrir un salaire semblable avec à celui qu'avait par exemple un Kylian Mbappé. On parle de 200 millions d'euros bruts annuels. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé en touche 10 fois moins. Il a 20 millions d'euros bruts annuels. Entre les deux, il y a sans doute un terrain d'entente à aller chercher. Au PSG, certains proches du dossier, justement, Jérôme, expliquent que ce n'est pas forcément le salaire qui va poser problème. Donc, on attend de voir la suite des événements. En tout cas, c'est un dossier qui va prendre des mois et les performances de Dembélé dans les prochaines semaines vont compter.
Merci Fabrice. La une de Rotten sans flamme. Partir cet été, prolonger. Que doit faire Ousmane Dembélé, 32-16, pour participer avec nous? Jérôme, qu'est-ce qu'il doit faire, le grand Ousmane, alors?
Écoute, moi, tu me parles du Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, ils ont tout gagné l'année dernière, avec Ousmane qui a fini ballon d'or. Je vais te dire, si je suis à sa place, je prolonge. On voit la grille des salaires, du moins. J'ai beaucoup de respect. Il peut gagner beaucoup plus d'argent en Arabie Saoudite, comme la plupart des joueurs qui vont. Il n'y a pas de souci. Et je suis personne. Moi, je peux pas me mettre à sa place. Ça doit être difficile de refuser un chèque, par exemple, de 100 millions à l'année, voire plus, parce que l'Arabie Saoudite sont capables de donner des salaires incroyables. Et ils le font avec certains joueurs déjà. Donc, ça doit être difficile de dire non et de prolonger dans un club qui te donne que 20 millions par saison. Mais moi, je vais te dire, pour aller plus loin dans la réflexion d'Ousmane et essayer de comprendre, déjà, je pense que par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière et encore plus l'année dernière, c'est qu'il a une grande conscience professionnelle et que c'est un amoureux, un passionné du foot par rapport à ce qu'il nous montre sur le terrain. Et sa progression l'a montré, parce que s'il n'était pas autant amoureux de ce métier, je pense qu'il n'aurait pas progressé autant qu'il l'a fait l'année dernière. Donc, vu qu'il est comme ça, j'imagine qu'il a encore envie de rester au plus haut niveau dans le football. Et le plus haut niveau dans le football, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est l'Europe. Et l'Europe, au Paris Saint-Germain, vu que t'es dans le club qui est champion d'Europe, t'es dans un club qui est très bien placé pour, encore une fois, faire tourner le compteur.
Qui est structuré, qui a tout ce qu'il faut pour continuer à performer.
Et puis surtout, à côté de ça, il a un poste sur le terrain, et ça c'est l'épanouissement du joueur, mais il a un poste sur le terrain qui lui convient très bien. Il a cette liberté que Luis Enrique lui a amené, il a le respect de ses coéquipiers, les gens au Parc des Princes l'adorent dans son attitude et tout ce qu'il donne. Tu sais, quand tu te bats sur un terrain, que t'es un vrai guerrier, que tu lâches rien, les supporters sont pas bêtes. Ils acceptent des fois le déchet qu'il peut avoir, parce qu'il en a encore. Mais par contre, le talent, le respect de ce maillot, il l'a fait dès le premier jour qu'il est arrivé au PSG. Donc, j'imagine que tout ça, dans sa réflexion, c'est aussi important.
Et tu serais déçu de le voir partir, toi?
Ouais, je serais déçu parce que s'il part, c'est juste une question d'oseille, parce que vraiment je vois pas un club européen, un grand club européen.
Je suis pas d'accord
avec non mais je te laisse je vous laisse parler après, mais moi je vois pas un grand club européen mettre 50 60 80 millions sur Ousmane Dembélé aujourd'hui. Il est au PSG, j'imagine que les grands clubs vont pas venir le chercher. Donc s'il part, c'est pour l'Arabie Saoudite. Et donc l'Arabie
Saoudite, c'est soit l'un soit l'autre. Il peut pas aller ailleurs que...
Moi, je pense. D'accord. Je vois pas du tout. Il a connu l'Allemagne, il a connu l'Espagne.
C'est vrai.
Barcelone, grand club. Paris Saint-Germain. Tu crois qu'il va aller en Angleterre? Moi, j'y crois pas. Donc. Voilà. Moi, je vous laisse. Vous êtes pas d'accord avec moi. Donc expliquez-moi pourquoi.
Manu, je te sens dubitatif.
Non. Ce que dit Jérôme, ça se tient. Je suis d'accord, sauf que je suis pas d'accord sur la fin, en fait. Et puis je pense aussi que il a une vision. Je pense il voit le verre à moitié plein. Il faut voir aussi le verre à moitié vide. Et je pense aussi que si je suis Ousmane Dembélé, je me dis que les deux saisons, notamment la saison dernière, qui est exceptionnelle à tout point de vue, elle est quand même liée étroitement avec Luis Enrique, qui a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui, dans une position que personne ne me voyait évoluer en poste de numéro 9.
Ah oui.
et que bizarrement c'est lié aussi avec la restructuration du Paris Saint-Germain, du fait que bizarrement bah c'est plus le joueur qui s'évanouissait, qui jouait 4-5 matchs et après était blessé, il revenait, rejouait 4-5 matchs et à chaque fois on était frustré de voir que ce talent-là n'arrivait pas à émerger complètement.
Ouais, mais les blessures, c'était plus le cas depuis 2 ans,
Manu. Non, mais je te dis, c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est un garçon extrêmement professionnel parce qu'il a aussi, il s'est rangé du côté de la diététique, de l'entraînement. Il a aussi un staff autour de lui et qui prend soin de lui, chose qu'il faisait pas quand il était au Barça ou ailleurs. Donc, il a bien mis conscience. Est-ce que c'est lui-même un jour qui s'est réveillé en disant ça? Moi, je pense que c'est le fait de côtoyer au quotidien Luis Enrique avec sa rigueur, son professionnalisme. C'est surtout qu'il doit faire un projet. Et c'est là où je veux en venir. C'est quand je vois aujourd'hui que Luis Enrique ne s'inscrit pas dans l'avenir du Paris Saint-Germain parce qu'il se dit peut-être.
Mais qui c'est qui t'a dit ça?
Pourquoi il s'inscrit pas? Est-ce qu'il va renégocier un contrat?
Il a dit qu'il était heureux d'être là et ils veulent lui faire un contrat à vie même.
Je suis pas en train de te dire qu'il est pas malheureux. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, il n'est pas en train de renégocier d'apposer sa signature sur un contrat.
Est-ce qu'on a des nouvelles?
Il a re-signé l'année dernière.
Luis Enrique, il est sous contrat.
Il a re-signé. Dans tous les cas, il aurait une proposition.
Oui, il a une proposition.
Luis Enrique, il aurait une proposition. De toi à moi. Rien ne dit qu'il va la refuser.
Mais rien ne dit qu'il va le faire aussi parce que est-ce qu'il a vraiment le sentiment, de Luis Enrique, est-ce qu'il a réellement le sentiment qu'il est capable de réitérer et de refaire ce qu'il a fait?
Moi, je pense, oui.
Peut-être, probablement, peut-être je me trompe.
Moi, il a l'air hyper heureux.
Je vous donne mon avis. Donc, moi, si on en revient au cas de Dembélé, je me dis que ma progression, elle est liée étroitement à Luis Enrique. Ce qu'a apporté Luis Enrique au sein du club. Si demain il s'en va, ça remet quand même considérablement le projet du Paris Saint-Germain.
Tu peux pas lier ton avenir à un joueur,
à un entraîneur.
Écoute, un entraîneur. Il l'a quand même transformé. Il est,
mais
c'était un bon joueur. Il en a fait un joueur exceptionnel.
Manu, c'est pas à toi que je vais dire ça. Même si il a beaucoup de respect pour Luis Enrique, j'imagine qu'au fond de lui, Ousmane, il dit, mais c'est aussi lié à mon attitude,
oui,
et à mes performances, à ma constance.
Mais qui l'a changé de position? C'est Luis Enrique. Qui l'a convaincu qu'au lieu de tuer les corbeaux qui passaient derrière le but. C'est du travail. Il l'a convaincu que dans cette position, il allait franchir un cap.
Ouais,
mais
rassure-moi, c'est quand même Ousmane Dembélé qui tire, c'est pas Luis Enrique.
Mais c'est ce que je te dis. D'accord. C'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un entraîneur qui décide de prendre la décision et de le convaincre que c'est dans cette position-là que tu vas t'éclater, dans le jeu que moi je veux mettre en place au sein du Paris Saint-Germain, et tu verras, fais-moi confiance,
tu penses vraiment que ça
tu vas devenir un autre joueur.
Et donc, si cette considération,
comme
Manu,
beaucoup de joueurs au sein du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, leur progression, elle est liée étroitement avec Luis Enrique.
Oui, mais ils sont tous
avec les décisions qu'il a pris l'année dernière en se libérant de pas mal de joueurs qui effaçaient tout le
collectif.
Mais
vu qu'ils prolongent tous, ça veut dire que, donc, si je suis ta logique, ça veut dire qu'il va prolonger.
Parce qu'ils sont
tous.
T'en es sûr, toi? Fabrice, t'en es sûr, toi, qu'il a une proposition aujourd'hui? Vous êtes sûr qu'il va re-signer Luis Enrique?
Non, mais Luis Enrique. Qui va en avoir une? Oui, qui va en avoir une? Après, qui va la signer? Ça, non.
Mais comme Dembélé, je suis certain qu'il a une proposition de prolonger. Est-ce qu'il va la signer? Personne, rien n'est moins sûr.
Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il va pas la signer?
C'est l'objet du débat d'aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il va la signer?
Si on fait un débat comme ça, c'est pas
mais les gars, mais en fait,
mais Luis Enrique,
mais si tu pars du postulat qu'il ne va pas la signer, je ne sais pas.
Non, je balance pas des garanties comme le fait.
Non, mais ça y est, maintenant,
tu es en train de nous dire que Dembélé, oui, il va re-signer, machin, tout ça.
Ah non, je te parle de Luis Enrique.
Moi, je vous dis, Luis Enrique garantit là-dessus, que ça soit Dembélé et Luis Enrique.
Luis Enrique, par rapport à son attitude
que cette année sera un marqueur parce qu'entre l'année qui s'est passée qui est exceptionnelle et l'année aujourd'hui ils viennent se faire sortir en coupe. Je veux dire, on va avoir aussi la semaine prochaine avec le marqueur de la Coupe d'Europe.
Passons la parole à JPP. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'il doit faire Ousmane Dembélé?
Ouais, pourquoi t'es pas d'accord avec moi, Jean-Pierre?
Parce que je pense que Dembélé, c'est un joueur de challenge. Chaque fois qu'il est allé dans les endroits, c'était parce que il voulait relever le challenge. Quelquefois, le challenge a été plus difficile que prévu, style Barcelone, voire même style Dortmund, où je pense que ça a été très compliqué pour lui. Derrière, il se trouve le PSG. Au départ, on sent qu'il a des qualités incroyables, qu'il a démontré. Par contre, quelquefois, on reste sur notre faim. Comme en ce moment, on reste sur notre faim. Les blessures, bien évidemment. Luis Enrique derrière qui le repositionne numéro 9. Et là, la vie change. Il marque des buts. Le PSG est champion d'Europe. Il a une part prépondérante dans ce succès. Mais aujourd'hui, bien forcé de regarder que les prestations sont de moins en moins bonnes en ce moment. Alors même si je l'ai défendu la fin dernière, en pensant et en espérant que il allait revenir le Dembélé qu'on avait connu l'année dernière,
bien forcé de regarder que c'est un peu plus difficile que prévu. Alors quand on a joué au football, on sait que quand on reste arrêté pendant une longue période,
on s'en doutait quand même
pour revenir au bon niveau, c'est au moins la période que t'es resté plus la même période pour revenir.
Ton niveau,
Mais qu'est-ce voilà. Faire, donc aujourd'hui, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc je pense que c'est difficile pour Dembélé. Après, je pense que pour moi, la dernière, s'il devait accepter un dernier challenge, aujourd'hui, il a pratiquement tout fait, c'est l'Angleterre. C'est le dernier challenge vraiment où je dis même pas qu'il pourrait passer un cap, parce que quand t'es champion d'Europe, t'as passé le cap bien évidemment. Mais si aujourd'hui il y avait un championnat où t'aurais peut-être envie de réussir quelque chose, c'est l'Angleterre. Donc c'est pour ça que je pense que peut-être après, un club anglais, parce que je pense que c'est les seuls aujourd'hui capables de sortir de telles sommes rapidement.
C'est sûr.
Voilà, moi pourquoi pas le voir partir en Angleterre.
Je vous pose une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'image aussi pour Ousmane Dembélé de devenir une grande légende du Paris Saint-Germain? T'as gagné le Ballon d'Or sous le maillot parisien.
Il est déjà une pièce rapportée.
T'as pas gagné le Ballon d'Or avec tes performances avant et tu l'as pas gagné quand t'es arrivé au PSG. Non, toi c'est grâce au PSG que tu l'as gagné.
Oui.
Est-ce que s'inscrire dans la durée, c'est pas aussi une façon pour lui de s'inscrire un peu plus dans l'histoire du PSG? Alors, est-ce que ça doit pas compter dans sa réflexion
Benoît, totalement. Et dans le sens, là je te rejoins.
T'as le temps de partir en fait.
Là je te rejoins et c'est pour ça que je te disais qu'il a tout intérêt à rester. Après moi je suis pas dans sa tête. Je sais pas si ça.
Content, ce qui reste.
Manu et Jean-Pierre, moi, on n'est pas dans sa tête, donc c'est
j'aimerais même le sonoriquer.
Si je suis dans sa position, vraiment, soit le challenge, si t'as l'opportunité d'aller en Angleterre, comme le dit Jean-Pierre, pourquoi pas? Pourquoi pas, si tu penses que l'Angleterre, tu l'as pas connu ce championnat-là, t'es dans le meilleur championnat au monde, parce que c'est la réalité. Pour moi, non.
Il a pas
mais le challenge. Par contre, si tu veux rentrer encore plus, il y est dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça.
Évidemment,
pas de problème. Ballon d'Or, l'année de la Ligue des Champions, il y est. Par contre, pour être la légende ou une des légendes, trois, quatre légendes du Paris Saint-Germain.
Ben oui.
Je pense qu'en effet, il devrait l'être. Parce qu'il a le Ballon d'Or, il a fait gagner la Ligue des Champions.
Mais
je pense qu'il n'est pas dans les 3-4, dans le cœur des supporters.
Dans le cœur des supporters.
En fait,
c'est subjectif.
Après, le gars, il est Ballon d'Or quand même. Il a gagné la Champions League.
Ce que je veux, Manu, t'as raison. Et c'est peut-être dur, mais encore, c'est
que c'est mon avis. Est-ce que c'est pas plus une légende du PSG que Dembélé?
En fait, si tu marques l'histoire de chaque génération.
Marquinhos, il représente aussi les années où
c'est un vrai symbole.
C'était la guigne, c'était le poissard. Tu vois ce que je veux dire?
Écoute, moi, Manu, je pense que de chaque génération, t'as toujours un mec que tu ressors. Tu vois, moi j'ai été marqué PSG, donc c'est peut-être les Suzic, les Fernandez, oui ils m'ont marqué, mais ça je vais même pas. Rai a marqué
George
l'histoire,
Weah, tout ça.
Pas Rai, Pedro, j'ai joué avec lui, donc c'est peut-être pour ça que je le mets un petit peu en retrait de ces mecs-là. Mais Pedro a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain sans aucun doute. Et après sur les années-là, Marquinhos, je pense qu'en effet lui est très marqué PSG parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est là, et il bat le record sur record.
Il est attaché en plus.
Et si tu vas sur un poste offensif, et c'est moi qui te le dis, et pourtant les derniers mois je l'ai en travers de la gorge, mais Kylian Mbappé aujourd'hui reste, je pense, dans l'esprit des supporters, son passage reste plus fort pour
meilleur
l'instant que Dembélé.
Tiens, sérieux?
Oui, par rapport au nombre. Et tiens, il a fait 7 ans quand même.
Mais c'est une question d'année, c'est une question de l'image que tu laisses en partant, quoi.
Oui, mais non, mais Manu,
l'image tout court.
Manu,
Kylian, je me rappelle des critiques qu'il a subies.
Non, mais à la fin. Mais Kylian, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Ça compte.
Et il a plus de 200 buts. Il a fait 7 ans. 7 ans dans une carrière, c'est un tiers. C'est presque la moitié, c'est entre la moitié
et le jour où il est parti du PSG. Ouais,
mais ça c'est autre chose. Accueillons Fabrice. Qui nous a appelé au 32
ces derniers mois, c'est pour
Jérôme.
Ça. Oui, Fabrice
nous a appelé au 32.
Salut Fabrice. Bonsoir messieurs.
Bienvenue Fabrice.
Bonsoir.
Merci. Quel déchet, c'est bien, j'aime vous entendre débattre autour d'Ousmane. Les avis sont d'ailleurs très très mitigés, très partagés. Pour ma part, je salue la performance. Il a touché le Graal. Il a eu un Ballon d'Or et c'est pas donné à beaucoup de joueurs. Donc bravo, puisqu'il est rentré à un certain échelon, je dirais. Mais C'est pas en toute objectivité, moi personnellement, un joueur qui me fait rêver. Et quand j'entends Jérôme dire il a fait gagner le PSG, non, indéniablement non. Excuse-moi Jérôme, laisse-moi finir.
Ouais, vas-y.
Ce qui a fait gagner le PSG pour moi la Ligue des Champions, contrairement à peut-être certaines équipes précédentes comme le Real ou City, c'est le collectif. Mmh. C'est ce que Luis Enrique a mis en place. Je trouve qu'au PSG, plus que dans n'importe quel autre club, il y a un collectif extraordinaire qui a permis à Paris d'aller toucher le Graal. Si t'enlèves Dembélé, on se démerde avec Vitina, on se démerde avec Jean Neves.
Jamais. En fait, je vais te dire...
Le Real champion d'Europe, si t'enlèves Ronaldo, je suis pas persuadé qu'ils aillent au bout. Le City champion d'Europe, si t'enlèves Rodri, je suis pas persuadé qu'ils aillent au bout. Et surtout, ce qui me fait peur pour Dembélé aujourd'hui...
C'est pareil pour le PSG l'année dernière. En fait, là...
J'en suis beaucoup moins convaincu.
Non, mais Fabrice, là où je peux pas être d'accord avec toi, c'est que regarde tous les matchs de Ousmane sur la deuxième... Et c'est pour ça qu'il a le ballon d'or. Sinon, il n'aurait pas eu le ballon d'or.
Si
c'est que le collectif qui a fait gagner le PSG, les gars... Mais tu donnes le ballon d'or à un autre joueur...
Il est décisif à chaque fois.
Il y en a moins 5 qui sont susceptibles de le gagner.
Non, mais... Oui, mais sauf que tout le monde était unanime pour dire.
Il est
désolé,
sur tous les matchs qui comptent. Oui, mais là, lui,
d'accord. Mais par rapport au poste, par rapport à l'importance qu'il a eu sur les résultats, comment il a le déclic, et puis surtout le rôle que lui a donné. Tu l'as dit, Manu. Le rôle que lui a donné Luis Enrique, il a les clés du camion. Offensivement, il décroche, il va devant, il va à droite, il fait ce qu'il veut. Et en plus, il l'a fait. Et c'est pour ça, Fabrice, je suis pas d'accord. Et on a tendance, en fait, c'est vrai, à minimiser un peu ce ballon d'or d'Ousmane Dembélé parce que il a surpris tout le monde, et moi le premier, à être aussi régulier, aussi performant et à être aussi efficace. Ah ok, mais n'empêche que sa progression qui a été fulgurante l'année dernière, mais bravo.
On s'est éloigné du thème quand même.
Ça fait partie parce que pour moi.
Rester. Et moi, c'est le dernier argument que je voulais. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est Jean-Pierre, il le sait, il a été ballon d'or. C'est un cercle qui est tellement très fermé. Quand tu as le ballon d'or comme ça, tu rentres dans un cercle très fermé. Donc, tout est... Allez. Prise de position et tes performances sont encore plus observées. D'accord ? Et pour moi, s'il part en Arabie Saoudite à 28 ans ou à 29 ans ou à 30 ans et qu'il a encore du talent dans les pieds, pour moi, l'image... qu'il envoie, elle est pas bonne à la nouvelle génération. Déjà qu'on fait du football business et encore une fois, je respecte les sommes données.
Tu as une responsabilité pour les jeunes footballeurs.
Totalement.
L'exemple que tu incarnes.
Non, c'est avec vos exemples.
Pour moi,
dans ces cas-là, les politiciens aussi, ils ont un exemple.
Ce que je veux dire, c'est que si tu fais le choix de partir en Arabie Saoudite, c'est le choix financier. Et pour moi, le message que tu envoies à la nouvelle génération, il est pas bon. Parce que moi, je reste un fou passionné.
Le message qu'on envoie à travers les réseaux sociaux, il est bon aussi, donc tu penses que Dembélé en choisissant... Non mais, alors je vais te dire un truc, si demain il lui propose 200 millions dans l'année, tu vas refuser toi.
Mais
si l'Arabie Saoudite propose le même contrat que Cristiano Ronaldo à Dembélé à la fin de saison, lui il va dire je refuse, ou alors s'il accepte, tout le monde va lui tomber dessus, alors qu'il n'y a pas un humain sur terre qui va te dire le contraire.
Je vais te dire, à 28 ans, je pense qu'il est capable de dire non. Mais il est pas malheureux au PSG. On parle de salaire.
C'est pas question d'être malheureux. C'est une question de
pognon.
Tu n'es pas en mesure de refuser ce genre d'offre.
Ah ben non. Bah, s'il va en Arabie Saoudite, Jean-Pierre, je suis désolé. C'est une question de pognon.
Et il devrait jouer ce soir PSG.
Pas que. À 200 millions par an.
Mais moi, je suis pas. Mais moi, j'y vais en courant. J'y vais en marchant.
Je sollicite tous les auditeurs. S'il y en a qui auraient le courage de refuser une offre à 200 millions.
Mais on a ton ballon d'or, Jean-Pierre Papin.
Manu, c'est terrible ce que tu dis. Parce que,
allez, faut y aller.
Attention,
on est
dans un club qui lui donne entre 20 et 30 millions. Mais
Cristiano Ronaldo, c'était la même chose.
Mais Cristiano Ronaldo, il est parti, il avait 36 ans.
Allez.
Il avait 37 ans,
merci,
il avait tout gagné.
Fabrice qui est venu au 32-16.
15 000 ballons d'or.
Ah, c'est l'alerte. Merci également à Fabrice Hawkins qui est venu nous donner toutes ces infos. Merci Fabrice. Toutes tes infos à retrouver sur mcsport.fr.
Par contre, s'ils veulent me donner 20, moi j'y vais.
Le moment de vous inscrire.
Je serre les pompes.
À l'expérience RMC.
Je serre de strapontin.
Marseille-Liverpool, mercredi 21h. Vous gagnez l'expérience.
Moi, pour 10 ou ce match, je t'emmène là-bas.
Vos deux places pour le match. Tu peux m'insulter, me craquer dessus si tu veux. Attendez, écoutez juste ce que je dis, l'expérience RMC, Marseille-Liverpool. Si ça vous intéresse, OM par SMS au 732-16. OM au 732-16. Dans un instant.
Si tu veux y aller, je suis là.
Le procès de tous ceux qui pensent que le carton orange est une mauvaise idée. Et j'ai une surprise pour vous. Parce que sachez que Roberto De Zerbi a parlé d'RMC en conférence de presse, notamment d'une certaine émission. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là. On est bien dans Rotten sans flamme. On continue. C'est la deuxième demi-heure de ce vendredi soir. En mode multiplex Liga à partir de 19h. Vous le savez, à 18h45. Le Allo Jérôme avec Manu Petit, avec Jean-Pierre Papin ce soir et avec Benoît Boutron. Ce sera pas mal le Allo Jérôme parce que Fabrizio Ravanelli sera là avec nous pour l'hommage à Roland encore, qu'on pense fort à lui.
Il y avait pénalty hein, sur Ravanelli. On confirmera avec lui, mais il y avait bien pénalty.
C'est quoi déjà son surnom, le renard argentin?
Pena Bianca.
Par contre, moi, je parle pas.
Ah si, si.
Alors, c'est un scandale qu'il a fait.
Avant le procès, j'ai une petite surprise pour vous, parce qu'il y avait une conférence de presse pour Roberto De Zerbi cet après-midi, avec d'excellentes questions, comme d'habitude, de Florent Germain, qui s'est présenté. Florent Germain, journaliste à RMC. Et ça a donné lieu à un échange sympa, voire un potentiel rendez-vous entre Roberto De Zerbi et RMC.
Ah ouais?
Et une certaine émission de radio entre 18h et 20h. Écoutez.
Oui, bonjour Roberto. Je me permets une petite question décalée qui n'est pas directement sur l'OM.
RMC, non?
RMC, oui.
Ah oui.
Vous écoutez RMC, vous aimez bien?
Non.
Non, ok, d'accord. C'est dommage, il y a très, non, très bonnes émissions.
Non, j'écoute pas. Non, RMC, non, 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 non
vous a invité plusieurs fois, mais on n'a jamais eu de réponse.
Ben, donc, vengo pas. Volentieri.
Ok. Bah,
a uno en particulier, ci vengo volentieri.
À quelle heure?
Un programme
en particulier, ci verrai volentieri.
Je sais, mais à quelle heure? Je viendrai en particulier.
18h?
À quelle heure?
18h20?
Non lo so, che ora.
Alle 18h20. Okay.
Bon, non, mais ma question décale.
Però non vengo come allenatore.
Mais je viens pas en tant qu'entraîneur.
Avec plaisir. Bon, bah, le rendez-vous est pris.
Et ben voilà, le rendez-vous est pris dans une émission particulière d'RMC. Il est le bienvenu, Roberto De Zerbi, quand il veut. L'invitation est lancée. Ça sera un plaisir d'accueillir l'entraîneur.
Il viendra pas en tant qu'entraîneur, il viendra en tant que passionné de football,
voilà,
comme on est.
En tant que consultant.
Ça tombe bien.
Une heure avec lui, ouvre les portes d'RMC.
Très bien.
Magnifique. Allez, on y va pour le procès.
RMC, Roten sans flamme.
J'adore ce joueur.
Anthony Létalec, grand fan.
Pour moi, c'est un des plus grands joueurs du monde.
Ah oui, Létalec, voilà.
Ah oui, ce joueur, il va exploser complètement. C'est des joueurs qui jouent avec des valeurs. Et c'est des joueurs très rares.
Ouais.
Le procès de Roten sans flamme.
Francis Lalanne à l'époque.
C'est Francis,
mythique.
Ah, c'est Francis, non, mais c'est surtout qu'Anthony, encore, tu peux tenir ce discours-là. À 18-19 ans, quand il avait 18-19 ans, tu peux penser. Mais sauf qu'il avait 30 ans, Anthony. Ouais, voilà.
Alors, parlons d'un des combats favoris du grand coach Courbis.
Et il l'a fait avec, avec l'œil de le pirate.
Le pirate. François Pinet. Un moment mythique, allez regarder ça. Le combat favori de coach Courbis, l'introduction potentielle du carton orange dans le football. La sanction intermédiaire entre le carton jaune et le carton rouge, un peu à la manière du rugby. Pour Roland, ça correspondait à une exclusion temporaire pour le joueur concerné. L'avantage, c'est donc de limiter l'impact d'une exclusion et d'éviter de tuer l'intérêt d'une rencontre pour les spectateurs. On a posé la question à la plupart des entraîneurs de Ligue 1 qu'on a croisés sur les deux derniers jours. Les avis sont différents. Il y a des coachs qui pensent que c'est une bonne piste de réflexion. Roberto De Zerbi, Paolo Fonseca, Luis Enrique. Une bonne idée, si on l'appelle le carton Roland Courbis, ça c'est ce qu'a dit Pierre Sage. C'était assez marrant de la part du coach Lensois. D'autres pensent que c'est un peu inutile, comme Claude Puel, qui a dit non mais Roland, il voulait juste permettre, comme à son époque, qu'on fasse une grande faute dès le début du match, qu'on ne soit pas sanctionné tout le match.
Claude Jaune, en plus, il est du même avec.
Ouais, mais il y a faute et faute avec Roland.
Voilà, il y a faute et faute aussi. Alors, ouvrons le procès de tous ceux qui pensent que le carton orange est une mauvaise idée. On a deux procureurs. Manu Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Pierre Papin, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de ceux qui pensent que c'est une mauvaise idée, c'est Maître Jérôme Roten. Bonsoir.
Bonsoir. Ami de Claude.
Et voilà, ami de Claude.
Contrairement à Manu qui a joué avec lui.
Et Yann rendra son verdict au 32-16. Salut Yann.
Bonjour.
Salut Yann.
Bienvenue.
Bonjour Emmanuel. Bonjour salut. Tout le monde. Bonjour Roten.
Eh ben écoute les arguments Yann et tu rendras ton verdict. Manu, vas-y sur ce procès. Qu'est-ce que tu penses donc de ce carton orange si cher à coach Courbis?
Justement, en mémoire de notre très cher Roland que tout le monde adorait à sa juste valeur ici, ça peut pas être une mauvaise idée.
Non, mais
ça déjà, ça te met le cadre. Mais le deuxième, en fait, c'est que je me dis que le football ne reste jamais figé dans ses règles, dans ses règlements. Et je pense que le foot a besoin aussi de s'inspirer de ce que font certains sports collectifs qui sont aussi en avance, je pense, sur le football, sur certains paramètres. Et je pense que.
Pense à quoi comme sport?
Bah justement sur l'appréciation, sur l'interprétation des choses. Et je pense aussi qu'avec la VAR, ça a amené quand même une confusion totale, notamment sur le dernier carré, le dernier rectangle, c'est-à-dire le penalty. Donc le carton fait partie également. On a vu des polémiques, en veux-tu en voilà, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, sur des matchs en disant sur telle faute, le match d'avant il y a eu un rouge, l'autre match il y a même pas eu de jaune, ou il y a eu qu'un seul jaune, c'est pas normal, alors que c'est comme la prestation justement.
On parle souvent du jaune orangé.
Exactement, sur la VAR. Donc ouais, je pense que ça peut être une alternative. Ouais. Et en plus, le fait de donner un carton rouge sur des fautes qui, des fois, ce n'est pas la sentence qui devrait être amenée, casse un match et donne la possibilité à l'adversaire, justement, de jouer paisiblement. Et donc, ça remet en question, en fait, l'équité dans un match. Donc, non seulement ça amène une alternative à l'interprétation que tu peux faire, sur certaines fautes, ça donne aussi la possibilité à l'arbitre, au lieu d'être radical, de donner une expulsion temporaire, donc de donner quand même un avantage à l'équipe qui subit la faute, mais en même temps de pas sanctionner l'équipe qui l'a fait durablement pendant tout le match, et de se dire au final un carton rouge aussi, la plupart du temps, des fois ça arrive souvent en fin de match, ça bénéficie à les équipes qui arrivent derrière. Là, ce sont les deux équipes qui se rendent compte et qui bénéficient moyennement ou pas du tout de ce carton. Donc je pense que, et pour finir, je pense que ça peut être aussi la possibilité d'aller dans le sens de rendre le football plus agréable, d'un football offensif. Le fait de sortir provisoirement un joueur donne la possibilité à une équipe de profiter de ce laps de temps pour tenter davantage de choses.
JPP, t'es de cet avis toi aussi? Tu penses que c'est une bonne idée?
Ouais, je suis de cet avis aussi. C'est vrai que, en fait, on voit trop depuis quelques temps, enfin depuis longtemps, mais je veux dire, on voit trop de quelquefois de fautes banales qui te rapporte un carton rouge, et ce qui quelquefois te change totalement la physionomie du match. Alors moi, depuis quelques temps maintenant, j'ai vu pas mal banales, de matchs. Les tirages de maillot, les tirages de maillot.
On est tous les deux dans le même sac.
Les tirages de maillot.
Un joueur qui glisse.
Tirage de maillot. Grosse obstruction.
En fait, tirage de maillot pour le mec qui part. Non mais je veux ça comprendre. Tirage de maillot pour le mec qui va au but, c'est ça?
Un joueur qui glisse, qui fait une faute grossière alors qu'il a pas maîtrisé son geste.
Pas spécialement sur. De toute façon, Jérôme, si tu fais tirage de maillot sur un dernier joueur, c'est carton rouge. C'est la base, non? On est bien d'accord?
Ah bah oui.
C'est annihilation d'une occasion de but, c'est carton rouge. Non, mais dans le jeu, t'as des joueurs qui tirent le maillot, ils prennent des cartons rouges. T'as des joueurs qui vont tacler ses limites, tu sais pas si c'est vraiment pour faire mal, etc. Quelquefois, tu prends un carton rouge aussi. Moi, je pense que ce carton orangé, en fait, pour moi, il serait valable parce que mettre un joueur de côté pendant 10 minutes, par exemple, c'est aussi permettre à l'autre équipe déjà de pas se retrouver, de se retrouver en supériorité numérique. Mais c'est aussi celui qui a fait la faute, il se retrouve en infériorité numérique, et ça peut aussi juste changer un peu les choses. Moi, je vais au rugby, sincèrement, depuis quelques temps maintenant. Il y a ce fameux carton où carton jaune, tu sors pendant 10 minutes. Et je peux te dire que sur des matchs où les équipes elles sont plus ou moins de la même valeur, ça change tout.
Ah ouais.
Ça change tout.
Bon, ben voilà. Parole à la défense, Monsieur Roten.
Écoute, moi, c'est pas que je suis contre le carton orangé, parce que au rugby, et Jean-Pierre, tu faisais référence au rugby, le carton orangé aujourd'hui, c'est faute grossière. Donc, mais
faut pas confondre le jaune et le bunker avec le rugby, c'est ça. Non. Au rugby, le jaune, quoi qu'il arrive, t'as une exclusion temporaire.
Non, mais c'est pas ça. Moi, j'ai.
Oui, mais le bunker, c'est autre chose encore. C'est 20 minutes.
Le bunker, c'est
analyse
ça.
Analyse de l'action.
C'est analyse de l'action où tu sais pas si ça mérite carton rouge ou ou le carton jaune est trop léger. Donc, ils ont décidé de mettre ce carton orangé, c'est-à-dire expulsion du joueur. Définitive, mais l'équipe elle subit une infériorité numérique pendant 20 minutes.
Voilà.
Et au bout de 20 minutes, tu peux remplacer le joueur. Et moi, foot, exactement. C'est ce que j'aurais envie de mettre en place.
Oui, pourquoi
parce que,
pas aussi.
Parce que 10 minutes, on a joué au foot.
Ça peut avoir un impact sur un match.
20 minutes, oui. Ah, oui. 10 minutes, je pense que réduire une équipe à 10 pendant 10 minutes, on le fait déjà sur les entraînements et tout ça.
Ça peut vite tourner en 10 minutes. Hein.
Mais 10 minutes, et le gardien, il met des 6 mètres, il met 1 minute 30 à tirer le 6 mètres. Les remises en touche, tu mets 1 minute.
L'organisation, Jérôme, même sur l'organisation, même ces 10 minutes avec une équipe qui sait bien s'équilibrer, etc. Ben c'est comme si ça n'existait pas. Hein.
Mais c'est pour ça, 10 minutes, pour moi, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'impact. Par contre, 20 minutes, tu commences à l'avoir parce que même physiquement, tu commences à souffrir.
Okay.
Donc 20 minutes. Et après, en effet, si l'arbitre, la question d'interprétation, et là, c'est pour ça que je te reprenais et j'essayais de comprendre le tirage de maillot, mais je fais référence au match de Lille la dernière fois. Lille prend un carton rouge d'entrée. D'entrée de match où il glisse, en effet, le mec part au but, donc il y a un carton, tu dois prendre une expulsion, mais là, c'était totalement logique de faire 20 minutes, ils sont réduits à 10 pendant 20 minutes, par contre, le mec ne revient pas, il a fait une erreur, mais vu que c'était pas une faute, catastrophe, il méritait un rouge, grossière, tu remplaces le joueur au bout de 20 minutes.
On n'est pas en total désaccord avec eux, mais tu veux
pas 10 minutes. Ouais, 10 minutes, ça, déjà c'est le bordel avec l'arbitrage vidéo et tout ça, mais vous imaginez, attends, lui on va le sortir 10 minutes et puis il va revenir. Ah bah non,
puis ça peut amener des scénarios incroyables.
Stop, les pieds noirs sont derrière
Jérôme aujourd'hui.
Yann, qui remporte ce procès?
Moi j'ai des véritables arguments quand même.
Tout le monde.
Yann, vas-y Yann.
Oui. Je vous écoute.
Bah vas-y, alors qui remporte ce procès?
Merci.
Qui remporte le procès? J'irai match nul parce que les deux arguments sont bons. Pour moi, 10 minutes, c'est trop court, mais après, on l'a déjà installé en amateur. Moi, je suis arbitre officiel dans le Loiret.
Ouais.
On a installé le carton blanc. Mais en fait, nous, c'est pour tout ce qui est contestation, c'est pas pour les fautes. Tout ce qui est pour faute, c'est carton jaune.
Et c'est quoi la conséquence d'un carton blanc, Yann, alors?
La conséquence d'un carton blanc, c'est pour toute contestation envers l'arbitre. Des joueurs qui viennent nous voir pour contester une faute où on a discuté, au lieu de mettre un jaune, on met un carton blanc. Et tout ce qui est en...
Mais c'est quoi, c'est exclusion temporaire?
Oui, exclusion temporaire. Okay. Par contre, un joueur qui a pris un carton jaune ne peut pas avoir un carton blanc.
Il y a direct un rouge si jamais il conteste encore. Ouais. Ok.
Non, c'est un jaune et
est-ce que Borghini qui a eu cette idée là parce que
t'aurais été emmerdé Jérôme si t'avais un carton blanc.
Bon, Yann vous renvoie nos ados.
J'ai une question.
Manu, vas-y, dernière.
Est-ce que vous seriez d'accord pour expérimenter le carton orange?
Yann, qu'est-ce que t'en penses, ton avis de fond?
Moi je serais pour, mais après, dans quelle
ça va faire beaucoup de cartons, parce que blanc, jaune, orangé, rouge. Il faut pas se tromper.
Bon, j'ai compris, Yann. Victoire de Manu Petit, alors. Victoire de Manu Petit et de Jean-Pierre
Papin. Et bonne chance sur l'état amateur.
Exactement.
C'est évident,
surtout dans la plus belle ville de France, en plus, à Orléans.
Bonne chance.
Bravo, Yann. Merci d'être venu.
Bonne chance. Sois meilleur, parce qu'apparemment, c'est pas terrible.
Dans un instant, Fabrizio Ravanelli avec nous, en direct dans Rotten sans flamme, pour rendre hommage à notre ami Coach Courbis. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure de Roten sans flamme avec le Halo Jérôme et on va recevoir un grand joueur, Fabrizio Ravanelli, qui viendra rendre hommage à Roland Courbis. On est avec Manu Petit, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. Et après 19h, vous le savez, vous en avez l'habitude, à partir de 19h, les vendredis soirs, c'est tous nos correspondants qui vont nous donner les dernières pépites, les dernières infos avant la 18e journée de championnat de Ligue 1 qui commence dans 10 minutes.
Avec ce Monaco-Lorient. Mais tout de suite, donc, c'est le Halo Géo.
RMC, Roten sans flamme.
Je pars déjà du principe que celui qui est en retard, il va me raconter un mensonge. Peut-être que des fois je me trompe, mais j'espère que ce soit un bon mensonge. Tu vois, je vais juger de la qualité du mensonge. Parce que en plus, si déjà tu arrives en retard, ça m'emmerde pour le boulot.
Si en plus tu me racontes un mensonge qui est tout simplement
incroyable. Et que tu penses qu'il y a une chance que je te crois, en plus du retard, tu me prends pour un con.
Allô, Jérôme.
L'immense coach Courbis, c'est la douloureuse épreuve qu'on affronte cette semaine. Toute la famille RMC qui pense à sa famille, à sa compagne, à ses enfants. On lui a rendu hommage. On a eu cette chance à l'église de la Madeleine cette semaine, Jérôme, Manu et JPP. Il y aura un deuxième hommage à Marseille demain, à l'église des réformés à partir de 16h. Tous les groupes de supporters vont s'unir pour rendre hommage à notre ami Roland Courbis. Un joueur mythique de l'Olympique de Marseille voulait lui rendre hommage aussi ce soir dans Rotten sans flamme. C'est Fabrizio Ravanelli qui est avec nous, Jérôme.
Salut Fabrizio.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir Jérôme.
Bonsoir Fabrizio, bonsoir.
Jean-Pierre, Manuel, à tout le monde.
Bonsoir Fabrizio, merci d'être là pour rendre hommage à Roland, on l'a fait et c'est normal. Et on va continuer à le faire tout au long de l'année et de ces prochaines années, tant que Rotten sans flamme existera dans tous les cas. Mais c'est bien que tu viennes lui rendre hommage parce que t'es quelqu'un qui a marqué dans la vie de Roland.
Ah oui, moi je pense qu'on avait un rapport extraordinaire, on avait un rapport très franc, on était presque frères. On a construit quand même un rapport tout de suite, pas comme seul entraîneur et joueur, mais c'était le seul entraîneur qui est rentré chez moi, il est rentré dans ma famille. À l'époque, quand j'étais à Marseille, il est rentré avec nous, mon père, ma mère, Lara. Il passait souvent, beaucoup de soirs, à manger la pâte de ma femme, de Lara. On regardait les matchs, beaucoup de matchs italiens. On parlait de football, on parlait de beaucoup de choses. On avait un rapport important à niveau de football, mais plus important ailleurs de football. Parce que moi, j'étais toujours à côté de Roland. Et certaines fois, vous avez connu Roland, c'est une personne quand même qui est très solaire. Il a un grand cœur. Il est une personne qui te va toucher parce que quand même, il a une humanité incroyable. Il est toujours à disposition. Et on a créé, moi et lui, un rapport que c'était quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, il me va manquer aujourd'hui quand je suis en train de parler avec vous. J'avais des frissons et j'avais des larmes aux yeux parce que c'est vraiment dur. C'est dur.
Fabrizio Ravanelli a invité.
C'est normal que ça soit extrêmement dur quand on voit le rapport que tu avais et tu viens de nous l'expliquer. Une fois que c'était plus ton entraîneur et tout ça, est-ce que t'as toujours, j'imagine, gardé contact avec Roland? Est-ce que vous voyez souvent? Est-ce qu'il t'a conseillé dans ta carrière d'entraîneur?
Oui, il m'a conseillé. On s'est passé toujours coup de fil en continuation. Même l'an passé à Marseille, on s'est trouvé beaucoup de fois à prendre un apéro ensemble. On parlait de Marseille, on parlait de notre vie, on parlait de notre problème, on parlait de toutes les choses. Et lui, c'était la personne très à côté de moi parce que moi, j'étais tout seul à Marseille et je sortais pas de chez moi. Et certaines fois, c'était mon conseiller et même lui, quand il y avait des problèmes, il était le premier à me donner un coup de fil pour essayer de donner la main à lui parce que lui, il avait la confiance sur moi parce que il savait déjà à l'époque quand il a eu des problèmes que Fabrizio, il était à côté de lui et on avait ce rapport-là. Et même si certaines fois on ne se voit pas souvent, mais on avait quand même toujours un coup de fil ensemble parce que Roland, je pense qu'il m'est rentré dans le cœur très très fort. Mais pas seulement à moi, honnêtement. À Lara, à ma femme, pareil, à ma famille, et à tout le monde. C'était un choc, honnêtement, quand on a appris la mort de Roland.
Fabrizio, dans ta carrière, tu as connu d'immenses entraîneurs. Tu as eu une grande carrière en sélection italienne. Tu as longtemps joué à la Juve. Tu as croisé des mentors comme Arrigo Sacchi, Marcelo Lippi. Ouais. On parle souvent de Roland. C'est le regret de sa vie, c'est qu'il n'a pas le palmarès à la hauteur de son talent d'entraîneur. Est-ce que tu peux nous le confirmer? Est-ce que Roland Courbis était un grand entraîneur au niveau des noms qu'on a cités là?
Aujourd'hui, il sera encore plus fort parce que lui, il était très très fort dans la communication. Il crée quand même toujours une empathie avec les vestiaires. C'est très important. C'est quand même un entraîneur qui connaît bien le football. Il connaît certaines choses. Et le seul regret que j'avais est que Roland, certaines fois, il aimait toujours faire des paris. Certaines fois dans les matchs. Et ça, c'était, je l'avais dit à lui toujours et je l'ai dit aujourd'hui encore. Et il aimait toujours faire des paris et certaines fois,
il tentait paris, des coups.
Quoi. Il ne tournait pas. Et oui, il tentait des coups qui sont souvent. Il n'arrivait pas après à toucher celle-là qu'il voulait toucher. Et alors, mais quand même, c'était toujours un grand entraîneur. Et il entraînait bien l'équipe, il connaît le football. Il connaît surtout le football. Et même quand il était à côté de vous, qu'il parlait à la radio, il parlait de football, il n'était jamais banal. Il avait toujours des mots totalement différents de tout le monde, hein, de moi, de vous, de tout le monde. Il n'était jamais banal. Et ça, je trouve que c'était toujours quelque chose de très intéressant. Parce que quand il parlait Roland, il te donnait toujours quelque chose de comprendre qu'il avait quelque chose de différent de tous les autres. Je ne voulais pas être très méchant avec tous les autres, mais moi pour premier. Hein, mais il était toujours Nassar. Même quand il est passé à la radio, pas parce qu'il est mort, mais il avait quelque chose de particulier. À mon avis, c'était même un champion à la radio dans son boulot.
Fabrizio, il faut qu'on soit honnête avec toi et qu'on t'avoue quelque chose. Parce qu'on l'a côtoyé pendant des années, coach Courbis. Et quelque part, il t'en a voulu pour quelque chose, le grand Roland. C'est qu'il nous a dit qu'après l'affaire du fameux pénalty entre le PSG et l'OM, la fausse ou la vraie simulation, le pénalty que tu as obtenu au Parc des Princes, pendant 6 mois, l'OM n'a plus obtenu de pénalty. Il nous a dit que c'est ça qui avait porté préjudice à l'OM. Et il te reprochait, il dit ah, mais Ravanelli, à cause de lui, on n'a plus eu de pénalty pendant 6 mois.
Oui. Non, c'est vrai. Et moi, je te vais raconter une anecdote que même en janvier, Clara aussi il me demande, et on se le dit toujours. Quand j'étais joueur, pour me garder toujours, de rester toujours bien physiquement, il me sortait souvent les dernières 10 minutes, 15 minutes.
Ouais.
Et une fois, je rentrais dans son vestiaire et je dis, putain, Roland, tu me sors toujours 15 minutes. Les dernières 15 minutes, pour un attaquant, ils sont toujours les plus importants. Ce sont les 15 minutes qui vont toujours manquer de but. Et tu ne peux pas sortir toujours.
Ah, ok.
Et après 20 ans, 25 ans, il me dit toujours cette chose-là, parce qu'après, quand il ne me sortait pas, j'arrivais toujours à marquer les derniers 10-15 minutes. Et alors, il me disait toujours, putain, Fabrizio, tu avais raison. Et ça, c'est une anecdote qu'on parlait toujours avec Roland. Mais Roland, c'était quelque chose de vraiment fantastique.
Fabrizio, merci d'être
merci
venu.
Merci beaucoup, Fabrizio, en tout cas.
Merci.
Tu avais parlé de Roland comme ça, et on n'en doutait pas. En tout cas, bonne continuation. J'espère te revoir dans
on
le foot assez vite.
Dans quelques mois, sûrement.
Allez, et écoute, voilà. C'est okay. Avec grand plaisir, Fabrizio.
Merci,
bonne année.
Okay.
Et meilleurs vœux, et fais attention à toi. Bisous, bisous.
Et je rappelle donc rassemblement de supporters demain à Marseille, au croisement de Belzins et de la Canebière à 14h45 pour accueillir, accompagner le cercueil de coach Courbis jusqu'à l'église des Réformés. La cérémonie démarrera à 16h. Vous êtes les bienvenus si vous voulez rendre un hommage à notre ami Roland Courbis, au qui on pense fortement et à qui on a dédié ce studio. C'est désormais le studio Roland Courbis où on se trouve pour Rotten sans flamme tous les jours. La suite justement de Rotten sans flamme dans un instant, le lancement de la 18e journée de Ligue 1 avec ce Monaco Lorient et le multiplex. Toutes les infos Ligue 1 avec nos correspondants. À tout de suite.
Sauf Gibo.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
C'est 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h02 sur RMC. On est dans Rotten sans flamme. C'est la deuxième heure de Rotten sans flamme. Magnifique première heure. On remercie encore Fabrizio Ravanelli d'être venu nous raconter des anecdotes et rendre hommage à Roland. On a une pensée forte pour Roland, ça c'est sûr. La deuxième heure, elle va être du même acabit que la première heure, voire meilleure encore, parce que Manu Petit va être meilleur, parce que Jean-Pierre Papin va être meilleur, parce que Benoît Boutron va mieux animer tout ça, et surtout parce que nos correspondants, ils vont nous bonifier tout ça. Voilà. On va faire le multiplex Ligue 1 dans un instant. Je suis content de les retrouver, vraiment.
Et puis il y aura le quiz à 19h45, tous contre Rotten, pour vous inscrire, quiz par SMS au 732-16. Non, il est là, Louis Gerbier, il est là, bien présent, et le cadeau est magnifique, une carte cadeau de 100€.
Il est dans un papier bulle aujourd'hui.
Chez Maison Scarlett, marque française de fabrication de boîtes à montres et de boîtes à bijoux. N'hésitez pas, c'est toujours un grand moment, le quiz de Rotten sans flamme. C'est donc donc la tradition du vendredi, le multi.
RMC, Roten sans flamme.
Papin.
Et quel est beau! Mathilde Basile, il est allé centrer.
Celui-là, il est magistral. Quel but! Oh, dans la grande série, dans la grande collection de Jean-Pierre Papin.
Coletta, bon ballon de Coletta pour Etta. Oh. Et la deuxième but pour le Paris Saint-Germain.
Celui-là, c'est autre chose. Hein.
Ah. Jérôme Breton confirme sa résurrection pour la première victoire. Et un but magnifique, le Paris Saint-Germain met 2-0.
Allez, lançons la 18e journée de Ligue 1 avec nos correspondants. Maxime Tillette, salut Maxime.
Ah, c'était bon.
Salut l'équipe.
Ah, ouais, bonsoir à tous.
Édouard G, salut Édouard.
Salut.
Jean Baumel, salut Djibo.
Salut Benoît.
Oh là, toujours problème de connexion avec Djibo.
Je vous ai dit, il a du mal. Je l'ai pas cité par hasard tout à l'heure.
Et Xavier Grimaud, salut Xavier.
Salut messieurs. Alors, salut à tous.
Elle est lancée cette 18e journée à Monaco. Monaco reçoit l'Orient avec un bel hommage pour le grand coach Courbis avant le coup d'envoi, Maxime.
Évidemment, Roland, 155 matchs sous le maillot de la SM, titres de champion de France. Alors, il y a eu une très belle minute d'applaudissement. Denis Zakaria, le capitaine monégasque, a même brandi un maillot de Roland frappé de son numéro 5 pendant ce joli moment de recueillement. Brassard noir, évidemment, sur les bras des joueurs monégasques pour ce match très, très important. Match à ne pas perdre pour rester accroché ou ne pas décrocher totalement par rapport au wagon européen.
Alors forcément, tous vos clubs sont touchés par le décès du coach qui est survenu cette semaine. Allons-y sur ce qui s'est passé justement dans vos différents clubs. On a été touchés à Lyon. Il y a eu une pensée pour coach Edouard ?
Oui, une pensée sur les réseaux sociaux, une pensée hier soir aussi lors des vœux du club, et puis aussi surtout Jean-Michel Aulas qui sur Twitter a évoqué son lien avec Roland Courbis, même s'il n'a pas porté le maillot de l'OL, même si à un moment donné il était tenté de venir à Lyon, mais que finalement ça ne s'est pas fait. Finalement à Lyon aussi on a et on va avoir sûrement dimanche soir, alors qu'on fêtera les 10 ans du Groupama Stadium, une pensée pour coach. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une petite banderole dans les tribunes.
Il a coaché dans le Nord, chez les Pingouins, à Lens. Jean Baumel, on en a parlé du coup cette semaine.
Ah bah oui, forcément. Bah, j'avais eu Gervais, vous l'avez eu également. C'est lui qui l'avait fait venir. Bon, il avait dit qu'il voulait rester à Lens malgré son éviction par Gervais et qu'il voulait que sa fille reste à Lens pour sa scolarité. Puis il avait fait une conférence de presse en disant « Je serai donneur d'avis ». Et ben, il a été avec nous pendant longtemps et non, puis il y aura des choses demain à Bollat. Ça c'est certain. Et Bruno Genesio aussi a eu un mot à l'encontre de coach, puisque forcément il l'appréciait beaucoup.
Et puis il y a eu une pensée forcément à Rennes. Habib Bey l'a bien connu, puis il a coaché le Stade Rennais aussi, Xavier.
Rennes c'est le dernier club où il était entraîneur principal finalement, Roland, de janvier à septembre 2016, 17 matchs, et l'un des matchs les plus mythiques pour les supporters rennais, avec une victoire 4-1 dans le derby face à Nantes, et un triplé de Dembélé, c'était son premier grand coup à Ousmane Dembélé avant de partir à Dortmund et la carrière qu'on sait. Oui, évidemment, son portrait sera affiché sur les écrans du stade avant Rennes-Le Havre dimanche. Il y aura une minute d'applaudissement. Il était très apprécié, notamment par la famille Pinault, et Habib Bey l'a bien connu. Il en a parlé avec beaucoup d'émotion et d'amitié. Ça loin, un peu comme tout le monde, son amour du jeu, sa passion, sa bienveillance, un peu à l'image d'un Jean-Louis Gasset, nous a-t-il dit que c'était des personnages qu'on verra plus jamais aigris, toujours dans le sourire et toujours dans la transmission. Et Roland disait souvent cette phrase, nous a dit Habib Bey, la passion ne s'éteint jamais quand on parle du foot, et il disait qu'il voulait profiter toujours du présent, et Abibay disait qu'il voulait garder ça en tête pour profiter à fond de sa carrière et de ce qu'il vivait. Voilà, il va nous manquer, a dit Bey.
Il va nous manquer, mais il sera présent avec nous, et il adorait ce multiplex dans Roten sans flamme. Lançons-le donc avec le leader du championnat, le RC Lens, qui va recevoir la JOCR demain à 17h. OCR est avant-dernier. Lens a gagné ses 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est la plus longue série de succès de l'histoire du club. Comment c'est vécu en interne, Djibo ? Est-ce qu'on veut tout faire pour prolonger la série, alors ?
Pour la série, en fait, il a fait un mea culpa hier, Pierre Sage, c'est pas 9, mais 10. Donc c'est peut-être demain qu'ils vont égaler le record des années 60. Oui, il s'est trompé, il s'est un peu avancé, il l'a dit après le match de Sochaux. Donc il faut quand même être bien précis. Donc concernant la question est posée en... c'est un peu étonnant de poser cette question, mais elle est peut-être légitime. Il y aura forcément une défaite bientôt. Et est-ce qu'on se prépare à une défaite ? Alors il dit non, on se prépare pas à une défaite. Lui, ce qu'il voit surtout, c'est l'efficacité dans le jeu. C'est ça qui va faire le résultat. Et préparer une défaite, je pense que mentalement, il va falloir trouver des solutions. Mais quand on regarde ce qui s'est passé contre Metz, ça aurait pu être une cata. Et ouais, la défaite à Saint-Symphorien 2-0 et derrière bah tu as cette série de 9 défaites, donc mentalement tu les sens, bah ouais, 9 victoires pardon, tu les sens que mentalement ça va, ils ont quand même des certitudes dans le jeu, même on l'a vu avec les absences, hein, Grady remplacé par Gagnou, Bulatovic qui remplace Sangaré, et d'ailleurs tous ces joueurs, alors Grady pas tout pour tout de suite, mais ça va mieux pour lui, ça va plus vite que prévu, donc c'est une bonne nouvelle pour Jonathan Grady, et Sangaré qui revient au milieu de terrain,
ça c'est une bonne nouvelle aussi,
voilà. Hudson-Edouard qui va pas jouer ce week-end, ça c'est peut-être un peu gênant, mais il y a d'autres joueurs offensifs, il y a Sima aussi qui peut tenter sa chance, voilà. Lens a aussi une certitude au niveau défensif, seulement 13 buts encaissés, c'est très solide, donc on imagine que bah il y aura forcément une défaite bientôt, mais j'ai pas l'impression que s'il y a défaite ça sera la catastrophe et derrière ça va s'écrouler.
Alors justement, vous, votre expérience d'ancien joueur, est-ce que quand on est embarqué dans une série comme ça à un moment, ça rajoute du poids et de la pression aux joueurs, est-ce qu'on veut la prolonger un maximum comme ça
La prolonger, bien sûr qu'ils veulent la prolonger, quand tu gagnes
même ça devient obsessionnel,
mais non mais quand tu gagnes les semaines c'est magnifique.
Oui, bien sûr.
C'est magnifique. Et déjà, tu peux te dire les choses parce que tu peux accepter les critiques, parce que quand tu gagnes, tu peux gagner par moment en jouant mal ou en étant moyen, et t'acceptes d'autant plus les critiques parce que tous les feux sont au vert, la confiance elle est au max chez tout le monde. Il y a une dynamique folle, bien conservée par le staff et par Pierre Sage. Oh, écoute, il y a pas de raison de penser à ce que ça va s'arrêter. Après, le jour, on reste des sportifs de haut niveau. Le jour où ils vont avoir un faux pas, peut-être un match nul ou une défaite, bah il va falloir se remettre le bleu de chauffe de nouveau et repartir comme ils l'ont fait après Metz, comme l'a dit Djibo. Donc non, tu peux pas anticiper déjà la défaite. Et t'as qu'une envie, c'est que ça continue pour créer une attraction particulière à Lens. Aujourd'hui, tu vois, ce soir, regarde par exemple, t'as PSG Lille. Quand on voit l'état du PSG, on se dit c'est pas sûr que le PSG prenne 3 points. Avant,
Lille pas terrible non plus quand même.
Non mais Lille pas terrible, mais le PSG pas terrible non plus.
Mais c'est pas impossible
qu'il se fasse accrocher. Tu reçois Auxerre derrière. Peut-être que t'auras 3-4 points d'avance sur le deuxième du championnat après 18 journées.
Et on commence à affirmer des ambitions d'ailleurs à Lens, au sein des dirigeants.
Bah, pas seulement, je veux dire, on est mi-janvier, ils sont un leader à un point, en sachant qu'ils sont en train de voir que le PSG n'est pas le PSG aussi fringant que la saison passée, et ils ont gagné le trophée des champions par la petite porte. Derrière, ils se font sortir en Coupe de France, même s'ils ont manqué d'efficacité devant le but, malgré tout. Et en plus, le PSG va réintégrer la Champions League à partir de la semaine prochaine. Donc, ils vont enchaîner des matchs tous les trois jours, en sachant les difficultés qu'ils ont à gérer l'effectif depuis le début de saison. Donc, quand tu vois ce qui se passe du côté de Lens, où tout est au vert, ils ont un entraîneur qui fait l'unanimité, qui fédère tout le groupe. Ils ont des joueurs qui respirent le même état d'esprit et qui s'éclatent sur le terrain et qui pratiquent un bon football. Et derrière, en plus, ils ont des joueurs qui incarnent, après le coup dur qu'ils ont eu avec le défenseur central, là, mais tu as l'autre, Udol, qui après 4 fois, il s'est fait les croiser. Ouais. Il est le symbole, en fait, de cette équipe-là. Ouais. Il est en train d'exploser. On est en train de parler de lui probablement pour intégrer l'équipe de France pour le mondial. Donc, tu te dis, il y a un côté résilient, un côté mental qu'il y a dans cette équipe-là.
Je vois les yeux de Jérôme.
Ils ont un match par semaine, c'est vrai.
Et surtout, un match par semaine, c'est pas la même chose.
Ça, c'est sûr. Avec la Coupe de France aussi. Et les ambitions affirmées par Jérôme Lécart, qui commence à penser un peu au titre. Comment tu vois ça, toi, JPP? Est-ce que tu as connu comme ça des longues séries de victoires à prolonger? Est-ce que ça mettait une pression particulière?
En fait, non. Quand tu dois prolonger une série de victoires comme ça, la seule chose qui compte, c'est de la prolonger. Tu penses pas un instant qu'elle pourrait même tomber, quoi. Après, bien évidemment, comme le dit Jérôme, quand on a joué au football, on sait que quelquefois, tu vas arriver 10 fois seul devant le gardien, tu n'as pas marqué un but, tu vas tirer sur le poteau, eux, ils vont arriver un contre, ils vont marquer un but.
Ouais.
Tout est possible. Mais sincèrement, je vois pas aujourd'hui Lens s'arrêter comme ça, en fait.
Ouais. Et puis ils sont pas stupides à Lens. Ils savent très bien que les séries sont faites pour se terminer. Ouais. Donc tôt ou tard, ils vont être confrontés à la défaite.
Moi j'ai en tête coach Courbis qui avait connu la série d'invincibilité de Gaëtan Huard et qui l'avait payé les semaines d'après. Dès que Huard avait pris un but, ça a été plus compliqué pour Bordeaux à l'époque.
Après, Manu vient de te le dire. En fait, ça dépend juste de comment tu digères cette série. Si Lens commence à s'enflammer, et dans les discours, c'est pas le cas, à s'enflammer, à se voir un peu beau. Déjà, ils l'ont eu une fois la piqûre de rappel, c'est à Metz. Ouais. Et Djibo l'a rappelé, ça fait 9 matchs. Ouais. En effet, à Metz, et je me souviens, on l'avait fait en direct dans, dans Rotten Sans Flamme, c'était un multiplex en pleine semaine. Ils avaient été horribles, horribles. Mais derrière, tout de suite, une équipe qui réagit le match d'après, qui enchaîne 9 victoires de suite, ça veut dire qu'il y a
du dangereux. C'est très dangereux. C'est très très dangereux.
Ouais ouais. C'est non mais bien sûr que c'est dangereux. Mais le faux pas, il peut exister. Et puis de toute façon, ils savent très bien qu'ils vont pas gagner les 18, les 16 derniers matchs de championnat.
Le seul bémol que je vois du côté de Lens, c'est qu'ils ont quand même gagné beaucoup de matchs à l'arraché.
Ah oui. Ça, c'est
des fois, c'est pas des signes aussi, ça?
Ouais, mais Montpellier, je me rappelle quand ils avaient été champions, ça a été un petit peu le même cas de figure. Mais quelque part, je me dis, au fond de toi, quand t'es joueur, tu te dis, bah, il y a des matchs quand même, des fois, on part avec les 3 points et que. Un jour, si jamais ça passe plus, tu te dis, tiens, la chance, elle a tourné. Et si ça rentre dans ta tête, c'est mort.
Mais sauf que, on les a connus ces saisons-là aussi. Quand t'as cette dynamique-là et cette part de chance qui existe, forcément, c'est la chance du champion.
Ouais, tu peux le voir des deux côtés.
Ouais. Bah, oui. Alors après,
Leicester a fait la même chose en première ligue.
Exactement, c'est arrivé à Lille, saison extraordinaire. Manu,
à chaque fois, on a des équipes surprises comme ça. Le dernier en date, c'était Lille. C'était période Covid.
Quand même, Jérôme.
Non, mais Lille, c'était période Covid. Donc moi, je vais le sortir.
Covid pour tout le monde, Jérôme.
Oui, non, mais attention, je vais pas retirer le titre de Lille. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Il y en a qui faisaient des soirées petit four.
Je dis juste que en termes d'état d'esprit, moi, ça ressemble plus à Montpellier. Tu vois, Montpellier qui était pas du tout programmé pour ça. Ouais. Et puis toutes les rencontres après les matchs retour, on disait non mais ça va s'arrêter. La première défaite, ils vont avoir du mal. Premier accro, puis en fait, il y en a pas eu. Ils sont allés au bout. Lens. Avec un PSG qui était moins fort en plus cette année-là, comme un petit peu cette année.
Lens Auxerre demain, 17h sur RMC. Parlons de l'Olympique Lyonnais. Réception de Brest dimanche soir. Lyon est 5e, 30 points à seulement 2 points du podium. Brest est 11e avec 22 points. La première en Ligue 1 pour Hendrick, l'attaquant brésilien.
Ouais, donc, après avoir marqué.
Oui, il a marqué en Coupe de France.
Il y a eu un départ, c'est la déprime, Edouard.
Et Satriano a été acheté, mais tout de suite cédé et exfiltré en Espagne.
C'est bizarre, ça.
On pourra en parler. Parlons surtout d'Hendrick.
Alors, très concrètement, si vous parlez de.
Vas-y.
Donc, ils ont levé l'option qu'il y avait de Lens à Lyon. Donc, ils ont payé 5 millions d'euros plus des bonus. Et là, ils l'ont prêté dans un prêt qui peut rapporter jusqu'à 300 000 euros avec une option d'achat de 6,5 millions d'euros de Martin Satriano. Arrête à fait, donc il n'était pas à l'entraînement ce matin. Et on vient d'avoir l'information officielle financière pour cet achat et le prêt direct derrière.
À 5 millions, ils ont acheté ça.
Non, mais surtout, est-ce que l'option d'achat de 6,5 est obligatoire?
C'est pas inscrit dans le communiqué, mais en tout cas.
T'imagines, pour un joueur qui ne met pas un but.
C'est ça.
C'est 3 quand même en 19
ans. Voilà, 3. Et c'est 2 de plus que Hendrick qui a fait un match. Vas-y, Edouard,
ça, c'est vilain, ça.
Parlons du Brésilien. Qui va
apparemment, il y a une option d'achat obligatoire pour Retafé s'il marque un but.
Ouais, c'est ça.
Bon, ils n'ont pas pris trop de risques.
De la tête.
Comment Fonseca compte gérer sa pépite brésilienne alors?
Alors, en tout cas, il a beaucoup échangé avec lui. Alors, depuis son arrivée fin décembre, mais aussi cette semaine, parce qu'il a dû lui reparler un peu du scénario de Lille. Alors, certes, Manu, tu l'as dit, il a marqué un but, mais il a surtout beaucoup tiré.
Il a oublié ses partenaires.
Et peut-être un petit peu. Alors, on a compté 4 tirs dans les 20 premières minutes. Alors, il y a le premier qui était dévié sur le poteau. Il y a un pointu, là, sur un raid de Tolisso. Il y a un troisième tir contré, un peu forcé à la 20e. Et puis, sur une remise de Schulz, là, ça part dans les nuages. Alors, au total, 71 minutes de jeu.
Un tir un peu forcé, t'as dit ?
Un peu forcé. Ouais. Non, je suis gentil.
Un peu beaucoup. Hein.
Alors, c'est un 9.
Le mec, il joue tout seul.
C'est un 9.
Alors justement, parce que tu m'as dit de poser cette question, Jérôme. Donc j'ai posé la question à Paulo Fonseca. Est-ce qu'il faut qu'il travaille un peu le collectif? Bah lui, d'abord, il nous rappelle une donnée importante au sujet d'Hendrick.
Hendrick a seulement 19 ans. C'est une nouvelle réalité pour Hendrick. La intensité d'entraînement, la façon de jouer, il a besoin de temps. Il a fait de bonnes choses, mais il a besoin de faire autre chose aussi plus collective.
C'est donc la question, Edouard, et qu'on peut poser à la Dream Team. Jean-Pierre Papin, est-ce qu'Hendrick doit devenir plus collectif, toi, le Ballon d'Or, l'ancien numéro 9 de l'équipe de France?
Plus collectif?
Oui.
Moi, écoute-moi, quand je vois jouer Hendrick, déjà, j'adore le style de jeu. Un peu fonceur, bien technique, capable de prendre sa chance rapidement et souvent. À un moment, de toute façon, il devra, quoi qu'il arrive, se jouer avec les autres, parce que quoi qu'il arrive dans cette équipe, ça va être important. Mais moi, j'aime bien cette façon de jouer où tu prends des risques et tu prends ta chance dès que tu peux.
Donc ça te plaît. Pour l'instant, tu te dis qu'il n'y a pas de style à
moi,
faire.
Ça me plaît. Oui, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça change un petit peu de ce qu'avait l'OL depuis quelque temps.
Ouais, ça c'est vrai.
Je pense qu'un dynamiteur comme ça, avec les joueurs qu'il a autour, ça peut être très très intéressant.
Jérôme.
C'est vrai. Non, mais alors après, moi, je vais pas contredire Jean-Pierre sur le poste de numéro 9. C'est vrai que sur le match à Lille, il a pas joué là. Ça a été la grande surprise. Il a joué sur le côté droit. Mmh. Tu vois. Donc pas numéro 9. Moi, numéro 9 dans l'axe, comme Jean-Pierre le dit, qu'il ait un excès d'individualisme, c'est pas un problème. C'est un numéro 9. C'est un buteur. On le voit dans ses prises de balles. Il est attiré par le but. Il faut le laisser faire. Mais quand tu joues sur le côté, en effet, et que tu participes un peu plus au jeu, par moment, c'est aussi bien de servir tes coéquipiers pour leur donner confiance et surtout leur donner aussi envie, au bout d'un moment, de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu marques. Mmh. Parce que Tolisso, deux, trois fois, quand il décide de jouer tout seul et de frapper et de tuer trois pigeons, il l'a regardé d'une façon, il a rien dit parce que c'est le premier match d'Hendrick et en effet, comme le dit Fonseca, c'est un jeune joueur, donc je dis rien pour l'instant, mais je pense que si ça s'améliore pas dans la relation technique comme ça, le jeu de passe par moment, si encore une fois il joue sur le côté droit, pas numéro 9. Numéro 9, moi j'attends pas qu'il fasse des passes décisives. Écoute, prends le ballon, t'es dans la surface, si tu vois le but, tu frappes. Ah, et avec la frappe qu'il a, je pense que
il va mettre quelques buts.
Ouais.
Tu vois, ça rappelle un peu Dembélé. Ça rappelle un peu Dembélé. Quand il était sur le côté, c'était un peu plus compliqué. Le jour où il l'a mis dans l'axe, ça change beaucoup de choses parce que en plus il a les deux pieds.
Ouais.
Je pense qu'Hendrick, il a pas les deux pieds, mais je pense que son mauvais pied s'en sert plutôt pas mal. Mais je pense que quand il va repiquer lui en pointe, en numéro 9, ça va être très.
Et puis Jean-Pierre, toi, en tant que numéro 9, je voulais te poser une question. Quand t'as un gardien comme Baudard en face, à mon avis, il l'a analysé, qui a pas de main et qui a pas de pied, à mon avis, ça t'encourage à tirer, quoi.
Non, mais...
Baudard, pour moi, l'erreur qu'il fait, c'est que.
L'erreur, c'est qu'il est nul.
Réponds pas au premier degré, JPP, te laisse pas voir, ne tombe pas dans le piège.
Oh, non, mais moi, je vais défendre. Moi, j'ai joué avec son père, donc je vais le défendre.
Ah ouais. Bah, j'espère
que c'est son nom, c'est Gilbert.
Il avait des pieds, son père, ou
des
mains. Il
est proche ou pas?
Oui, à Bordeaux.
Mais sur le but de Lille, il doit la prendre de la tête. Point. Il n'a même pas cherché à la prendre du pied, de la prendre de la tête.
Ah, t'as vu, j'ai été gentil, j'ai dit qu'il avait pas de pied, pas de main, mais j'ai dit qu'il avait
pas de tête.
Il avait pas de tête aussi, merde, on est mal.
Hendrick doit devenir plus collectif. Est-ce que c'est important? Alors, est-ce qu'il doit
son jeune âge a été rappelé, c'est son premier match, donc il a quand même, le droit à l'erreur. Puis bon, c'est un garçon qui vient du Real Madrid, ne l'oubliez pas quand même. C'est un garçon qui veut en imposer à tout le monde, donc, qui a aussi été dans l'ombre de certains grands numéros 9 qui à chaque fois jouaient aussi souvent de façon égoïste aux abords de la surface de réparation. Donc quelque part, je vais pas lui tirer à boulet rouge dessus, en sachant quand même que ça a été une de mes inquiétudes lorsqu'il est arrivé, qu'il va falloir quand même qu'il se fonde dans le collectif et que ça soit justement l'élément qui franchisse le palier à ce collectif.
Il n'est pas là que pour ses stats, il est là pour
accompagner le collectif, mais qu'il soit pas là pour se servir du collectif, pour qu'il le serve en permanence. Tu vois ce que je veux dire?
Mais Manu, tu sais,
quand t'entends Fonseca, déjà il a envie de lui donner un petit peu de temps.
Ouais.
Et c'est rare aujourd'hui d'entendre parler comme ça, parce que en général il faut aller très vite. Donc
après il faut qu'il se dépêche, il est là pour 6 mois.
Il sait qu'il a une pépite, donc aujourd'hui il doit juste lui donner l'occasion de montrer que.
Ouais, et je pense que ça, il va savoir très bien faire, Fonseca.
Alors. Et puis, pour ce que tu disais, Manu, il y a Chris qui l'a bien connu aussi, le joueur brésilien, qui était venu en parler au mois de décembre dans l'émission et qui avait été dithyrambique sur lui en disant.
Il fait un peu cheval fou à l'heure actuelle, il a besoin d'être canalisé.
Quelle frappe de balle.
Ouais, puis attends, combien ils l'ont acheté, le Real?
Cher, hein, plus de 40 millions d'euros.
Bah, frappe de balle, mais aussi coup de rein, je veux dire,
tout, un tout, le timing, la tête et tout.
Avec ses qualités, tôt ou tard, il trouvera l'ouverture du but.
Le match en cours de la 18e journée oppose Monaco à Lorient dans une ambiance complètement dingue au stade Louis II, Maxime Tilliette.
Non, c'est très très calme, très feutré, grève des supporters, arrête, colère, banderole, direction d'émission.
Et toi, tu tombes dedans, toi, et tu lui réponds.
Ouais. Est-ce que les joueurs t'entendent si tu parles fort, Maxime ?
Ah oui, bien sûr.
Tu peux y aller en photo.
Là, il n'y a pas photo.
Non, pas. S'il marque un but, crie pas trop fort parce que là, tout le monde va être choqué.
Bah, ils sont pas passés loin, en tout cas, à 3 ou 4 reprises.
Ouais. Ils font un bon début de match quand même.
Ouais, c'est vrai. Même si les Lorientais sont capables de jouer les coups en transition, ils ont de la qualité. D'ailleurs, Lorient qui est invaincu depuis 8 matchs. Donc, des dynamiques totalement opposées entre des monogasques qui avancent au ralenti dans ce championnat et des Lorientais qui sont plutôt en bonne forme. Mais sinon, toujours 0-0 entre Monaco et Lorient pour le moment. Le temps fort de ce début de soirée au stade Louis II, ça reste l'hommage rendu à Roland Courbis avant le match.
Dans un instant, la suite du multiplex.
Non, mais je rigolais parce que ce que vous disiez en fait sur le public, le fait de pas trop parler parce que ça résonnait.
Oui.
Moi, je me rappelle certains matchs avant même le coup d'envoi, le début de match, des fois je voyais des gens que je connaissais, je dis on se voit après et tout, on se donne rendez-vous à tel restaurant et tout. Toi aussi?
Ouais. Il n'ose pas le dire, il est mort de rire. Jérôme, c'est incroyable.
C'est le seul sale monde.
Tu vois, c'est un jeu district en fait.
Et Manu,
c'est incroyable.
Pas au pied de la tribune.
Ouais. À l'opposé,
de la pelouse.
Ouais, ça va.
Ah, d'accord. Pour ceux qui connaissent pas le stade, il y a les marches derrière le but où tu sors du vestiaire. Et en face, t'as la tribune où t'as les familles, les amis en général. Donc t'as pas besoin d'aller au bord, t'as lui dis ouais.
Pas besoin de gueuler non plus.
Ouais.
À tout à l'heure.
À 23h09 de Paris. Ouais.
Incroyable. On va au sas café après.
Ouais, maintenant pas après le match. Hein. Vas-y direct, on se rejoint. Je viens à pied moi.
La suite du multi dans un instant. Est-ce que Rennes doit viser la Ligue des Champions? On en parlera avec Xavier Grimaud, qui on parlera également. Les premiers pas de Claude Puel à Nice.
Et moi ça sera une seule meunière.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, on est là, on est bien. Dernière demi-heure de Roten sans flamme en mode multiplex Ligue 1. Tous nos correspondants sont encore là. On a encore quelques infos à vous donner avant, pas avant, parce qu'elle a commencé cette 18e journée de championnat de Ligue 1 avec ce Monaco-Lorient. Pour l'instant, 0-0 au bout d'une demi-heure de jeu. On est avec Manu Petit, avec Jean-Pierre Papin, avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes. Pour finir cette semaine en beauté, le quiz de Louis Gerbier avec un super cadeau à faire gagner.
Ouais, 100€ de cartes cadeaux chez Maison Scarlett, fabrication de boîtes à bijoux et de boîtes à montres 100% français. Donc inscrivez-vous 32-16 touche 4 ou quiz par SMS au 7-32-16. Où en est Monaco face à Lorient, Maxime Tilliette alors?
Ça domine, mais sans pour autant réellement inquiéter. Hein. Yvon Mvogo qui là a raté tout à l'heure sa relance, mais les Monégasques n'ont pas su en profiter. Et donc là on fait circuler. Tous les joueurs de champ Monégasques sont dans le camp des Lorientais et essayent de trouver la faille, mais pour l'instant ça ferme bien les espaces avec notamment un Talbi ou un Meite qui remporte leur duel dans la surface de réparation quand il y a des centres qui arrivent. 32e minute donc 0-0 entre Monaco et Lorient.
Les autres correspondants présents, Edouard G, Jean Baumel et Xavier Grimaud, pour parler du Stade Rennais qui va recevoir Le Havre dimanche à 17h15.
Titre, hein, Rennes.
La série Rennes, c'est 8 victoires, une défaite sur les 9 derniers matchs. La seule défaite, c'était face au PSG. Méfie-toi, parce que Rennes est à 2 points du podium. Alors justement, est-ce que l'objectif, mon cher Xavier, c'est pas la Ligue des Champions désormais pour les Rennais?
Ça va très très vite. Hein. Qui aurait pu prédire ça en octobre? Mais effectivement, les Rennais, Jérôme, bien sûr.
C'est bien. Je te laisse parler, Xavier.
En tout cas, en pleine crise en octobre, les Rennais maintenant sont dans la course pour les places européennes. Ça, c'est une certitude. C'est l'objectif du club, retrouver l'Europe. Mais ils ne sont qu'à 2 points, à 2 points du podium, à 2 points du troisième. Et ils sont dans la course, les Rennais. Donc la question est légitime. On l'a posée tout à l'heure à Habib Bey et à Moussa Tamari et à Lilian Brassier. Est-ce que Rennes peut viser la Ligue des Champions? Écoutez ce qu'en pense Bey. Vous allez voir, il se cache. Alors, il n'en fait pas un objectif, mais les Rennais ne se cachent pas. Non, il ne se cache pas. Écoute-le.
Aujourd'hui, on n'a rien volé. Tout ce qu'on a pris, on l'a mérité. Je dis souvent, et je vous l'ai dit ici, il n'y a pas de hasard. Ces performances-là, on est allé les chercher. à mon sens, on a été très souvent supérieur à l'adversaire sur la globalité du match. Et donc, il faut valoriser ce que font mes garçons actuellement. Et donc, ça veut dire qu'on a aujourd'hui la capacité de se mêler à ce qui se fait de mieux dans ce championnat. À nous de ne pas être prétentieux, mais par contre, d'avoir de l'ambition et de considérer qu'on peut regarder tout le monde dans les yeux, tout simplement.
Le Stade Rennais ne s'interdit rien. Finalement, ils auraient tort, évidemment, parce que la dynamique est excellente. La confiance est là. D'ici la fin du mois, il y a deux réceptions qui arrivent, la réception du Havre au Roazhon Park et la réception de Lorient. Sur le papier, deux équipes qui peuvent leur permettre d'engranger encore des points. Puis après, il y aura un petit moment charnière avec un déplacement à Lens, un déplacement à Monaco et la réception du PSG. On en saura sans doute plus. Ce qui est sûr, c'est que Rennes est revenu un peu du diable Vauvert. On n'y croyait pas dans la course aux places européennes et que maintenant, ils peuvent rêver plus haut peut-être. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent rêver plus haut, Jérôme ? J'ai hâte de t'entendre.
Ah bah oui, vu la série, Xavier, je suis d'accord avec Habib. Il a rectifié le tir. Le groupe a l'air de mieux vivre. De toute façon, le groupe vit mieux parce que tu peux pas faire ce genre de série sinon si le groupe vivait pas bien. Il a eu des choix forts aussi.
Ah, il a été inspiré quand il a replacé comme ça Merlin dans l'axe.
C'est ce que je te dis. Il a eu des choix forts.
Ouais, et Samari, ça, piston gauche. Ouais.
Voilà. Là, il s'appuie sur un 11 type quasiment. En plus, il y a pas trop de blessures. Donc, pourvu que ça dure. Moi, je pense que Rennes montre le niveau. De toute façon, c'est leur niveau. Ils sont à leur place là pour l'instant, à la lutte pour une place européenne. Que ça soit la Ligue des Champions, ça serait magnifique. Mais il y a des équipes qui normalement sont mieux armées que le Stade Rennais pour finir sur le podium. Là, ils profitent du fait que Marseille, c'est sur courant alternatif, que Monaco a dégringolé. Ouais. Donc, écoute, profite. Tu sais, il y a des saisons comme ça quand tu t'es pas prévu pour faire la Ligue des Champions et plus l'Europa League ou la Conference League et que t'as des équipes qui se cassent la tronche devant parce qu'elles sont pas rendez-vous, et profites-en. Et là, Rennes est en train d'en profiter. Mais là où Xavier t'as raison, c'est que la série, les deux matchs qui arrivent, tu peux enchaîner. Après, tu vas avoir trois gros matchs à jouer. Et si tu t'en sors bien sur cette série des trois matchs où tu vas jouer les trois cadors du championnat, si sur 9 points, t'en prends 6 par exemple, ou t'en prends 5, peut-être que là, en effet, ça sera totalement
crédible. Il y a la Coupe de France aussi, qui vient s'intercaler.
Mais la Coupe de France, ils vont à Marseille.
Ouais. Oui, c'est pour ça, je te dis. Donc, il y a les trois matchs contre les trois ténors de.
Oui, effectivement, allez, ouais.
Et il y a la Coupe de France qui, imagine, ils sont éliminés et qui perdent à ce moment-là. La dynamique peut rapidement s'inverser. Donc, tu sais, dans ce championnat de France, ça fait des années qu'il y a une chose qui se vérifie à chaque fois, c'est que les choses peuvent aller très très vite dans les deux sens en fait. À partir du moment où tu fais une série,
et c'est ça qui est fou. Tu vois dans quel état ils étaient à l'automne, et exactement, là ils se retrouvent à c'est deux points du dis. Podium et de la troisième place.
Mais dans tous les championnats, c'est un peu le cas à l'heure actuelle. Tu me diras, c'est toujours le cas, ça a toujours été comme ça en l'histoire du foot. Je suis pas serein. Ouais. Et quand tu vois le classement, il y en a qui sont collés à quelques points, à quelques encablures. Donc celui qui fait des impairs sur deux ou trois matchs peut très rapidement se retrouver hors jeu, quoi, tu vois.
Xavier, j'ai une question, moi. Oula. Juste sur Habib Bey, sur tout ce qu'on lui reprochait il y a pas si longtemps que ça, et on en avait parlé, on a fait des émissions là-dessus. Est-ce qu'il a changé son attitude? Est-ce que tu as noté un changement de sa part?
Écoute, lui il assure que non, hein. Il assure que ils ont été constants, qu'ils ont juste un petit peu, on va dire, resserré un peu le discours encore sur l'exigence, et qu'après il a fait des choix, comme tu as dit, tactiques qui ont marché. Et après il y a la continuité du 11 qui fait que. Mais lui il assure qu'il a pas renversé la table. Il le dit.
Mais attends, mais juste une petite question, parce qu'on se rappelle tous de la réunion entre joueurs justement début
pour
de saison. Ouais, mais lui n'est pas intervenu dans cette réunion. Il a dit, c'est les joueurs parler entre eux.
Ça veut dire beaucoup, hein.
Non, mais justement, je m'en rappelle, moi, à l'époque, on avait dit que c'était quand même dangereux et inquiétant à ce stade de la compétition d'avoir déjà une réunion entre joueurs. Donc, j'aurais aimé savoir ce qu'ils se sont dit, quoi.
Ça, on avait un peu de réponse, hein. On en avait parlé. Ouais, ouais. Il y avait eu des conférences sur rmcsport.fr pour en parler à l'époque. Tiens, juste parce que j'aimerais qu'on parle de Nice, on n'a pas parlé depuis la reprise de Rotten sans flamme, et on t'entendra là-dessus d'ailleurs, JPP. C'est donc cette équipe niçoise qui va se déplacer à Toulouse demain à 19h sur RMC. Toulouse est 8e, Nice 14e, 4 points d'avance sur la zone rouge. Début réussi pour Claude Puel qui a succédé à Franck Haise. Il a eu ce nul face à Strasbourg, la qualif en Coupe de France à Nantes. Comment on analyse les premiers pas, entre guillemets, du comeback de Claude Puel à Nice? Alors, Maxime?
Bon, on a vu tout de suite dans ses prises de parole qu'il voulait redonner confiance à ses hommes. Dès ses premiers mots, il a dit qu'il était très agréablement surpris par le niveau, la qualité de ses joueurs, là où un Francaise, sur ses dernières semaines, ses dernières sorties, était plutôt à pointer du doigt les limites de son groupe. Donc voilà, redonner confiance à tout le monde. Ça marche aussi pour un Eli Wahi qui vient pour 6 mois. Et oh, attention, l'ouverture du score, l'Orientaise. Et oh, c'est Bamba Dieng qui vient marquer. Et c'est l'homme en forme du côté des Merlus. Ils ont su faire le dos rond, les Lorientais, et ils piquent désormais au premier poteau du pied gauche et refusé. Le drapeau se lève, ça sera sans doute vérifié.
Grosse alerte. Public,
ouais. Ouais, exactement.
Vrai avertissement.
Vrai avertissement pour les Monégasques. Et on sent beaucoup de tension dans les rangs Monégasques à chaque occasion manquée.
Tu l'avais pas
par
vu
les
ça,
Monégasques,
Maxime,
y a la frustration. Non, parce que je t'avoue que j'étais en train de regarder mes notes sur Claude Puel.
Je le cherche encore, le hors-jeu.
Bah oui, là c'est compliqué. Pourquoi il y a hors-jeu là-dessus là ?
Action passive peut-être du.
Franchement, s'il siffle hors-jeu là, c'est un scandale.
Bah ouais.
C'est. Il le touche pas le ballon, Pagis.
Non,
On attend la confirmation, j'ai le temps d'en parler avec
après,
les consultants.
C'est qui, c'est Frappard
C'est Willy Delageau. Ah, Willy
Delageau. C'est génie aussi. Bon, à mon avis, le but va être refusé.
Les gars, un mot sur les débuts de Puel, du coup, à Nice. Est-ce que tu trouves que. Que c'est réussi pour Claude Puel. Est-ce que c'est l'entraîneur idéal pour Nice pour la situation de Nice?
C'est trop tôt pour l'instant pour dire si c'est une réussite ou pas. Dire, il gagne.
Non, mais est-ce que c'est ce profil-là qu'il fallait
Nantes,
pour sauver la
à
saison
à Nantes,
de Nice
qui est dans la galère, il gagne au pénalty en Coupe de France. Quoi? Comment tu veux que je te dise c'est mais fantastique que Claude Puel est arrivé.
Je vais te répondre. Bah, voilà.
Donc les problèmes de comportement de cette équipe de la part de certains joueurs.
J'ai compris.
Je pense. Oui, parce que Pagis touche la balle.
Refusé 0-0.
Voilà. Eh oui, parce qu'il touche la balle.
Bah, c'est pour ça que je vous ai dit, je l'ai vu. Tout
bravo,
suite.
Monsieur l'arbitre. Chapeau.
Non, mais pour répondre à ta question, Benoît. Oui. Comment tu peux te poser ce genre de questions après trois matchs en sachant qu'ils étaient en
je
trou?
Je vous parle de profil.
Que des joueurs aujourd'hui qui font presque.
Je comprends rien.
Il y a des
Benoît,
joueurs qui aujourd'hui sont presque
si, je comprends
sur
bien.
Le point de poursuivre leur club pour non-protection sur ce qui s'est passé avant les fêtes de Noël.
C'est un consultant foot,
enfin, c'était un bazar pas possible. Mais et ça reste quand même un chantier énorme, le GC Nice à l'heure actuelle. Donc, tu poses la question de savoir est-ce que c'est un bon choix? Est-ce qu'il est parti? Il est sur 2 victoires, match nul. Donc c'est des choses qu'on ne voyait plus du coup.
Un nul et une qualif en Coupe de France.
Un nul et une qualif.
Il y a pas de victoire encore.
Sûrement c'est prémonitoire ce que je viens de te dire.
Ouais. Ah, donc toi tu dis qu'il y a 2 victoires.
Ah, c'est Manu Voyant.
Le prochain match, ils vont gagner l'OGC Nice.
À Toulouse.
Okay. À Toulouse. Donc je veux te dire, c'est que la priorité des priorités dans ce contexte-là, que ça soit Claude Puel, Tartampion, l'homme invisible, on s'en tamponne. Il fallait stopper l'hémorragie et rapporter des points et changer justement cette trajectoire extrêmement négative.
Bon, JPP.
Moi, je pense que le groupe, ils ont lâché Ace, quoi qu'il arrive, parce que il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été dites, surtout, notamment, je pense le coach à un moment disait que son équipe était faible techniquement, que les mecs ils couraient pas, etc. Moi, je pense que Claude Puel, c'est un bon coup parce que d'abord il fallait un électrochoc. Je pense que Claude il est rompu à ce genre d'exercice. Il a suffisamment la pointe nécessaire et je pense que tout simplement les joueurs ils vont se mettre derrière lui, donc ça va repartir.
Ouais.
Et on verra ça donc ce match de Nice à Toulouse. Merci les copains, merci à tous les correspondants, Jean Baumel.
Bon week-end à tous.
Les gars. En espérant que Lens soit pas comme Thibaut.
Et Max, tu restes avec nous pour la suite de ce Monaco-Lorient toujours 0-0, 5 minutes à jouer en première période. Dans un instant, Louis Jabien en grande forme pour le quiz de Roten sans flamme. Tous contre Roten, ne bougez pas.
On le finit là.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h46 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, on continue l'émission. Bah, c'est les 10 dernières minutes, déjà, elle est passée vite cette émission avec le quiz de Louis Gerbier dans un instant. Et après, on vous laisse tranquille tout le week-end pour se retrouver lundi dans Roten sans flamme en forme, en très grande forme, avec beaucoup de surprises à partir de 18h lundi. Mais ce soir, on est avec Manu Petit, Jean-Pierre Papin qui vont former une belle équipe. Benoît Boutron sera l'arbitre. Deux auditeurs. Un super cadeau, on y va.
RMC, tous contre Roten.
Avec Louis Gerbier qui est là en pleine forme. Salut Louis.
Salut l'équipe.
Ah, content de te retrouver.
Bah, je suis jamais parti.
Papier bulle aujourd'hui.
Est-ce que c'est la mi-temps à Monaco, entre Monaco et Lorient? À l'instant,
à l'instant, la mi-temps sifflée, quelques sifflets qui raccompagnent les joueurs au vestiaire. 0-0 au tableau d'affichage. Monaco a plutôt dominé, même si c'est Lorient qui a fait trembler les filets. But de Bamba Dieng, finalement refusé pour un hors-jeu passif de Pablo Pagis. 0-0 donc entre Monaco et Lorient à la pause.
Vont s'affronter ce soir pour une carte cadeau de 100 euros chez Maison Scarlett. Raphaël et Denis, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et salut Denis,
salut.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien, soyez les bienvenus, bienvenue, les amis. Denis, merci. Tu es supporter de l'OM. Est-ce que tu veux jouer avec la légende Jean-Pierre Papin?
Alors, j'adore Jean-Pierre Papin, mais j'aime aussi les passeurs gauchers fins.
Ah, donc tu joues avec Manu alors?
Magnifique. Même okay. S'ils sont pour le PSG.
Allez, va jouer
avec Jérôme.
Pragmatique.
Pragmatique.
C'est très bien que le jeu est truqué.
Non. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je te demande de retirer ça.
Je vous demande de vous excuser. Voilà. Tu laisses passer ça, Louis?
Bah, c'est scandaleux.
Non, mais en plus,
c'est un truc. Il y a du travail derrière ça. Il y a une équipe. Il y a des gens qui bossent. Il y a de l'intégrité. On se bat même quand on est malade. Et après, on entend ça.
Allez, go, vas-y.
Allez.
Bon, Manu, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Hein,
bah oui.
Ouais. Allez, Manu, hein, sois bon.
Le match en ce moment, c'est quoi, Jérôme?
Monaco-Lorient.
Monaco-Lorient.
Eh ben alors, thème Monaco-Lorient. C'est beau, ça. Hein,
c'est bien, c'est bien.
C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, question.
Pas de menace, Jérôme, à la régie.
Oui, il menace tout le monde en ce moment. Question, qu'est-ce-t-il?
Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, va opposer Richard.
Il est de retour.
Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Ah, ça suffit.
Quel gardien passé par les deux clubs a joué en Espagne et en Angleterre depuis cet été?
A joué en Espagne et en Angleterre depuis cet été.
A joué en Espagne et en Angleterre depuis cet été. C'est mieux avec la rupture.
Qui a joué dans les deux clubs? À Lorient et à Monaco.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Il n'y en a pas mille qu'on joue à Lorient et à Monaco.
Ouais, il a joué à l'Atlético de Madrid.
Oui. Alors, pas beaucoup joué, hein, mais.
Bon, il y était, quoi. Ah, il est allé à Madrid. Il a visité
c'est l'autre, le comte.
Oui.
Crac, 1-0 pour Jérôme.
Et pas Michel.
Et Denis. Non.
Quel défenseur qui a joué dans les deux clubs a été transféré cet été à Augsbourg? Ça vaut 2 points.
Oh, purée.
Ça vaut 2 points. Là, on va voir si vous la connaissez, votre Ligue 1.
Un défenseur.
Matsima.
Oh oui. Oh là là. Et 3-0 pour Jérôme.
Allez là. Matsima, ça tombe sec.
Ouais, ça part bien pour Jérôme.
Il n'a pas joué en gladiateur.
C'était ton défenseur préféré, tu disais.
C'était Maximus, ouais.
Non, mais.
Matsima, très bon. Très
c'est
bon.
La meilleure vanne du quiz.
Ils l'ont pas gardé. Hein.
Allez, question petite, tiens, justement.
J'aime la bouffe, j'aime les voyages, j'aime le sexe.
Et des fois, c'est les trois en même temps, tu vois.
Il nous refait le jingle en direct, c'est beau.
Et on va voyager. Oui, ils avaient oublié qu'il y avait un jeune autour de la table.
Ouais, non, mais il y a un stagiaire de 3e à côté de moi. Voilà. Et qui vient s'en rendre compte.
Ça va, on ne pas tes parents. Hein.
Je vous emmène en Pologne.
Ah ouais.
Ça, c'est sympa. Quand
ah oui,
c'est
bien. Ouais.
C'est sympa.
C'est vraiment le thème.
C'est bien.
Quel joueur passé par.
On est à Varsovie, là.
Quel joueur passé par les deux clubs joue au Pogoń Szczecin en Pologne?
Par les deux clubs, quel que soit
Lorient. Ah, Lorient, oui.
Ah, l'attaquant,
les
là.
Deux clubs
ah,
du thème.
Oui. Comment il s'appelle?
Recule.
Joue.
T'as dit?
Il joue en Pologne.
Benjamin Mendy, voilà, défenseur, j'allais dire.
Oh, crack. Réduction de l'écart.
Très, très bon quiz de Nicolas Ledru depuis le début de partie.
Ah, il est impressionnant. Il distribue les ballons.
Il donne la réponse à l'un, il donne la réponse.
C'est dingue, hein, c'est fou, ça. Maximus.
Déjà, je te retire la première phrase parce que à l'un ou à l'autre, moi, il m'a rien donné.
Et Manu non plus.
À l'un ou à l'autre, tu m'appelles pas par mon prénom déjà.
Parce que Matsima, c'est ton défenseur préféré.
Matsima, je connais Matsima.
Donc Benjamin Mendy, la réponse. Quel autre champion avec Monaco en 2017 a joué dans les deux clubs aussi?
Quel autre?
Germain.
Non.
T'as dit quoi? C'est quoi?
Bakayoko.
Oui, bonne réponse.
Simon
et
Bakayoko.
C'est un vrai numéro 10.
Ça,
je me suis réveillé, c'est bon.
C'est dingue, 3-2. Bravo, Nico.
Eh ben, justement, ce soir. Question Papin.
Ah, c'est fou.
Waddle qui glisse bien pour Papin cette fois. Papin, oui. 2 buts à la
menace de mort sur le producteur de la part de Jérôme Rotten.
Ah ouais.
Attention, la question Papin.
Sa mère va avoir les oreilles qui sifflent.
La question Papin, la question Ballon d'Or. Une seule réponse par personne.
Ah.
Cette année-là, en 2017.
Oui.
Kylian Mbappé, il a fini combien au Ballon d'Or?
En 2017.
Ouais. Il était champion avec Monaco. Il a eu le transfert au PSG.
Ouais.
Il est dans le top
5e.
Il est dans le top 10. 5e là-haut.
Allez.
Moi 7. 7.
10e.
Bonne réponse de Jérôme Roten. 7e.
4 à 2 pour Jérôme contre le reste du monde.
Ah bah, hey, une question con.
Là je suis en RMC. Un handicap.
Qu'est-ce que vous êtes con? Qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
Il avait pas mal la question là. Eric Dimeco, ça tombe bien.
On a mis le meilleur pour le.
Oui.
Quel joueur formé à Monaco et qui a fait des allers-retours entre Lyon et Lorient est toujours dans la galette des rois?
Je l'ai. Oui.
Formé à Monaco?
Bah oui.
Romain Fèvre.
Bah oui.
Crac. 4 à 3. Je
disais, moi j'ai cherché Queen et King.
Ah d'accord.
Score s'arrête.
D'abord pas.
La bonne réponse vaut 3 points.
Combien?
3 points.
Bon, balle de match.
Quoi, j'étais en avance.
Balle de match. Balle et de je demande.
C'est corrupt. C'est corrupt.
À la régie de n'aider personne.
Non, mais oui.
On veut un quiz propre.
Alors. Donc tu reconnais en fait.
Ah bah oui, je reconnais que t'as été aidé, Jean-Pierre aussi et Jérôme aussi, oui bien sûr.
Mais pas du tout.
Bon, pas du tout.
Allez, vas-y. Non, la première, oui, mais pas la dernière.
La première, ça
non, moi, il m'a rien donné.
Allez, vas-y. Oui.
Allez, bah, hey.
Je refuse de toute façon. Moi, j'ai
ouais, pas. Bien sûr.
Pour la génétique. Pour la dernière question de la semaine, il n'y en a qu'une pour cette semaine, évidemment. La question t'y rendit compte.
Ti rendi conto se tu posi una questione a un supporter italiano che dans quelques années, chi è stato più forte?
Chi è stato più forte?
Chi è stato più forte?
Avec l'accent italien de Coach Courbet.
Oui, et là particulièrement parce que le nom s'y prête.
Ah, excellent.
Quel gardien passé par les deux clubs joue actuellement au LOSC?
Ah, je l'ai.
C'est une question ti rendi conto.
Il joue au LOSC? Ah oui, oh là là, comment il s'appelle? Qu'est-ce que t'es plus fort?
Vous voulez les initiales?
Ouais. Non, je l'ai là.
VM.
Je l'ai en plus.
Bah, bon, VM, on triche pas, non, on ne triche pas.
Putain.
VM. Ça pourrait être un van Mercedes.
Ouais, tout à fait. Pour le prénom, c'est un van Mercedes.
C'est Manone.
Che state più forte? Che state più forte?
Vito Manone!
C'est dingue! Et Jean-Pierre qui offre la victoire à Raphaël. Et oui, Denis, tu aurais dû choisir Jean-Pierre. C'est
Jean-Pierre,
Raphaël.
Il a tapé le Minitel, tac, tac, tac.
Ah, je te jure que non.
Avec Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîte à bijoux et boîte à montres, jolie, pratique et accessible. Rendez-vous sur maison-scarlett.fr.
Merci à Louis Gerbier, repose-toi bien. Merci à Manu Bouquet. Jean-Pierre Papin dans un instant, l'After Live et la suite de la 18e journée de Ligue 1, seconde période entre Monaco et Lorient et coup d'envoi de PSG Lille à 20h45. Jérôme,
régalez-vous sur RMC, c'est là que ça se passe et nous on se retrouve lundi en forme, en très grande forme, du lundi au vendredi. Roten sans flamme ne s'arrête jamais de 18h à 20h et je vous conseille d'être là à partir de 18h lundi parce que beaucoup beaucoup de surprises la semaine prochaine. On va se régaler et on va vous faire kiffer. Je vous embrasse et bon week-end et à lundi.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.